Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Au bout du foot. Il est 21h17 si vous venez de nous rejoindre dans les locaux de Mon Paris FM. Un petit problème technique. En tout cas, on démarre aujourd'hui avec Abou. Comment ça va, Abou ?
Ça va. Comme un lundi.
Comme un lundi ? Une bonne semaine de football ?
Ouais, ça va. Ah, moi, excellente semaine de football.
C'est rare, excellente semaine de football côté marseillais. Mais
je suis un passionné de football, moi. J'aime le foot pour les raisons.
Je pense que toi aussi.
Ouais.
Hein, monsieur bon. Bonjour, Dembélé. Bonjour.
Bonsoir à tous. Dembélé, ouais.
Ouais.
Ballon d'or.
Ah
ouais. Hein,
c'était prévu.
C'était prévu, ouais.
C'était l'histoire.
On avait une petite frayeur parce que l'année dernière, on a eu une mauvaise expérience avec Vinicius. Mais il l'a fait. Bah, Vinicius, on pensait tous qu'elle allait avoir le ballon d'or, non ?
Personne n'a rien dit.
Il y a des grimaces.
Ils sont mal tout seuls déjà.
Non, du tout. En tout cas, on va y revenir, hein, monsieur Dembélé. Je suppose que tu as eu Ousmane aussi au téléphone. Ouais, tu l'as félicité pour son ballon d'or.
Obligé, c'est la famille.
Merci, Salson. Maxence, comment ça va, Maxence ?
Toujours très bien. Et là, tout le monde est content autour de la table. Donc c'est bien, c'est une belle semaine qui se termine et qui va commencer.
Et qui va commencer aussi, surtout. Qui va commencer aujourd'hui, t'es aux couleurs du Paris Saint-Germain.
Pas forcément, le bleu et le blanc, c'est l'OM aussi.
Ouais, mais c'est un bleu foncé.
Plus proche du PSG que
du
Marseille.
J'ai pas mis de t-shirt rouge. Donc, d'accord,
merci. Du coup, on va enchaîner tout de suite, tout simplement. On va enchaîner avec la Ligue 1. La Ligue 1, le Marseille qui se sont imposés dans le Classico. Face au Paris Saint-Germain, ce qui n'était plus arrivé depuis 14 ans. Et ensuite, Marseille qui se sont imposés encore ce week-end 2-1 avec les rentrants et un coaching payant aussi. Aubameyang, auteur d'un but, et Murillo du deuxième. Et qui ont su renverser la vapeur tout simplement du côté strasbourgeois et s'imposer 2-1. Marseille qui sont ils sont quatrième maintenant. Troisième, c'est bien ça. Deuxième, le Paris Saint-Germain. Le deuxième Lyon et premier Paris Saint-Germain. Comment t'as vécu cette semaine de football, Maxence ?
Ah, plutôt très bien. Déjà, on peut même prendre un peu plus largement avec le match du Real. On s'attendait à une semaine très difficile entre Real et PSG d'affilée. Finalement, c'est plutôt bien déroulé avec un visage très, très, très bon au Bernabéu et très digne. Et derrière, la victoire dans le classique. Donc, très important parce que même si c'était un PSG diminué et un PSG qui était prenable, ça reste un PSG où il n'y a pas beaucoup de Marseillais qui ont leur place dans l'équipe adverse au coup d'envoi. Il n'y a pas plus de deux Marseillais pour moi qui jouent dans cette équipe du PSG qui arrivait là, avec Gonçalo Ramos, Vara devant, il y avait le milieu quasiment tiré.
Il y avait quand même une hécatombe de blessés côté Paris Saint-Germain.
Oui, il y avait une hécatombe de blessés, mais ce que je te dis, au début du match, il n'y a pas beaucoup de Marseillais que tu mets titulaire dans l'équipe adverse. C'est que la défense, c'était la défense type. C'est qu'au milieu, il manquait João Neves, sinon t'avais Vitinha, t'avais Fabian Ruiz. Et devant, t'as Guevara et Gonçalo Ramos, deux mecs qui valent 80 et 100 millions d'euros et qui sont inatteignables.
Voilà,
à part Greenwood éventuellement qui aurait pu avoir sa place dans l'équipe d'en face, sinon il n'y en a pas beaucoup de l'OM qui ont leur place. Donc ça reste un exploit pour moi. Ça reste une grosse performance.
Pourquoi tu parles de place ? On demande si vous avez gagné. Félicitations à vous.
Wow. Non mais justement, je te dis que ça reste un exploit et une performance majeure.
On n'a pas battu un PSG affaibli.
T'as battu un PSG affaibli, mais t'as battu un PSG qui reste supérieur à toi.
T'as battu un PSG qui avec cette équipe doit finir champion.
Exactement,
tous les jours,
mais évidemment. Ça reste une équipe qui est inatteignable pour n'importe quelle équipe de Ligue 1.
Personne n'a mis en doute votre victoire.
Bah, c'est très bien
gagné, félicitations.
Et derrière, le match contre Strasbourg, je le trouve très symptomatique c'est pas le bon mot, mais révélateur plutôt du changement de cap de l'OM. C'est-à-dire que c'est des matchs l'an dernier où, avec des matchs en semaine, etc., on était en galère parce qu'il fallait faire jouer des Lirola, des Mopé, etc. Là, tu peux te permettre de faire tourner en faisant reposer des joueurs cadres comme Greenwood, comme Aubameyang, et en ayant une équipe qui est quand même compétitive, avec du Guiri, avec du bon Ahmed Traoré qui est blessé, mais du Peshao. Et donc ça, c'est une profondeur d'effectif qui augure de très bonnes choses pour l'OM, parce qu'avec avec plusieurs compétitions cette année, on va devoir s'appuyer sur les remplaçants. Et il y a un banc qui est quand même très très bon. Des mecs comme Pavard qui sortent du banc aussi, Emerson qui sort du banc. Ça permet de faire tourner tout en restant compétitif, et je trouve ça super intéressant pour la suite. Et Marseille est bien lancé dans ce championnat, enfin.
Merci Maxence. Salson, on a pu voir aussi Lille qui sont tout simplement inclinés à domicile avec des faits d'arbitrage très, très discutables, on peut dire ça comme ça. En tout cas, Lyon qui ont réalisé la bonne opération, et Lyon tout de même qui réalise une très belle début de saison.
C'est à ça que j'allais en venir, c'est que moi pour l'instant, Lyon, malgré les ventes qu'ils devaient faire, qu'ils étaient obligés de faire, et franchement, c'est pas mal. Hein. C'est au niveau résultat, en tout cas. Là, ils sont dans les trois premiers. Et franchement, je ne m'y attendais pas. En plus, ils ne font pas de bruit. Franchement, je suis content pour eux. Voilà. Ça fait une équipe encore. Voilà. Qui peuvent, on va dire, titiller le Paris Saint-Germain. Et ça met un peu plus d'animation dans le championnat. Bah, tu dis non. Je ne t'ai dit pas, ils vont venir titiller. Mais oui.
Tu viens de le dire.
Oui. Je l'ai dit pour la forme. Mais pour le début de championnat, c'est intéressant. Ça fait un début de championnat de sens. Il n'y a pas un écart entre les équipes, tu vois.
Pour moi, ils sont en surperformance totale. Ouais. Lyon, ça se sent. C'est, le gardien, il fait 4 arrêts par match de fou.
Oui,
après, ça ne durera pas.
Oui, ça ne durera pas. Mais en tout cas, personne ne les attendait à ce.
Oui, c'est vrai. C'est un très bon début.
À cette place-là,
faut qu'ils prennent ce qu'il y a à prendre. Mais pour moi, ça ne durera pas. Ils finiront pas dans le top 3, dans le top 4. Ça craquera un moment.
J'attends de voir. Parce que tu sais, maintenant, le football, il y a beaucoup de surprises.
C'est sûr qu'avec beaucoup de ventes côté lyonnais, aujourd'hui, leur effectif est un peu amoindri. Mais ça reste tout de même, en tout cas, dans les matchs, là, pour l'instant, ils arrivent à se débrouiller et à faire beaucoup de clean sheet aussi. C'est ce qui n'y arrivait plus, surtout depuis l'année dernière. Oui. Abou, toi qui vas toujours nous dire Monaco, on s'en fiche un peu, pour rester poli, mais Monaco qui ont encore perdu à Lorient.
Je ne sais même pas qu'ils avaient perdu.
3 buts à 1. Ansu Fati qui a marqué.
Ouais, qui a encore sur penalty, marqué. Oui,
qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Bah, déjà, juste avant de parler de Monaco, moi, pour juste revenir vite fait sur Lyon-Lille, moi je trouve l'arbitrage catastrophique. Je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. C'est une honte pour le sport français qu'une rencontre soit arbitrée comme ça. Moi, j'ai regardé le match hier. Je prends pas le temps de vraiment m'attarder sur les arbitres, sauf quand c'est l'OM. Là, c'est vraiment 90 minutes catastrophique. Il fait tout à contresens. Il n'y a rien qui va. Et le carton rouge pour Bruno Genesio, il est symptomatique en fait, du match de l'arbitre qui a fait n'importe quoi du début à la fin jusqu'à ce rouge-là, avec un semblant au début du match et un semblant d'explication à Genesio d'une décision où il ne siffle pas un pénalty dans la surface de réparation, où il va faire il va expliquer la chose, mais derrière, ce match, il est catastrophique. Mais enfin, bref, donc ça, c'est symptomatique déjà du mal-être au niveau de l'arbitrage du football français. Et quand on nous explique que c'est Michael Landreau en plus qui gère tout ça, je vois pas c'est quoi la légitimité de Landreau pour gérer l'arbitrage français. Mais ok, Monaco c'est, bah, je pense qu'à 18h il faut qu'il parte, en fait. Il y a un moment donné, il y avait les paris, c'est qui le premier coach qui sera viré en Ligue 1. Bah, je pense qu'il faut prendre la décision.
Après, il y a un fait de match aussi, un carton rouge qui est prêt.
Au-delà du fait de match, les dernières semaines de Monaco, c'est dégueulasse.
On n'en parle pas parce que c'est Monaco. Oui. Si c'est l'OM ou le PSG qui fait une semaine comme ça, ils vont en prendre 4 à Bruges en Ligue des Champions.
Ouais, mais
derrière, ils perdent contre Lorient.
Et Talence qui prend un rouge aussi, qui prend un rouge le dimanche et qui arrive. Enfin, le rouge, il n'explique pas tout non plus de ce qu'est Monaco aujourd'hui.
Je suis d'accord avec vous, mais après, l'AS Monaco, c'est comme ça chaque année. C'est pas une équipe qui nous fait.
Il n'y a pas
de surprise avec
ils
eux.
Ils ne sont pas ridicules en Europe tous les ans non plus. Là, non, ils en prennent 4 en Belgique, c'est quand même.
Oui, sur ce match-là, je suis d'accord avec toi. Mais
ils vont jouer City
mercredi, ça va pas être facile. Hein. Ouais.
Ça va pas être facile du tout. Alfred, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ces matchs de Ligue 1?
La victoire de Marseille, elle n'est pas en comparaison par rapport au Paris Saint-Germain, même si le Paris Saint-Germain détient des footballeurs de qualité. Mais quand même, la victoire de Marseille a salué. Donc pour moi, ton point de vue en disant que oui, ces éléments-là, par-ci, par-là, moi, je suis quand même étonné, non?
C'est Salé qui disait ça, pas Maxence. Hein.
Moi, justement, je salue la
Maxence,
j'ai
salué
en disant que l'effectif du PSG, même amoindri.
Qu'est-ce que j'ai dit, moi?
Non, l'effectif du PSG, même amoindri, restait une très bonne équipe et meilleur que l'OM. Donc c'est une performance de l'OM.
Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que le PSG venait à voir par rapport
à... Il a dit qu'en fait, les joueurs de certains
Alfred,
joueurs de Marseille n'avaient pas...
Parle dans le micro, s'il te plaît, Alfred, parce que c'est un peu compliqué. du coup, qu'est-ce qu'on disait juste avant, Alfred, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, en tout cas, l'arbitrage? Est-ce que t'as pu voir le match de Lille face à Lyon? Est-ce que t'as pu voir ce match?
Ce match-là, je ne l'ai pas vu, honnêtement, de façon honnête. Moi, c'est celui de Marseille que j'ai vu. Donc, moi, après moi, pour moi, c'est un Marseille, il y a longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Donc, pour moi, aujourd'hui, voilà, faut féliciter Marseille.
Donc, toi, ce que tu retiens vraiment de cette semaine, c'est Marseille qui ont battu le Paris Saint-Germain à domicile, ce qui n'était en Ligue 1, ce qui n'était plus arrivé depuis 14 ans. Et pour toi, c'est la grosse info, en tout cas, c'est ce qu'on doit retenir de cette semaine de football en Ligue 1.
Tout à fait.
Merci, Alfred. Salson ?
On est quand même sur mon Paris FM, j'aimerais qu'on parle du Paris FC quand même. Le Paris FC, là, c'est derrière moi. Ça commence, dans le jeu, je trouve avoir, surtout avec la venue de Lismilou, là. Il y a, avec Lopez au milieu de terrain, franchement, il commence à avoir de la qualité. C'est pas trop ça, mais ça commence à prendre forme.
Bah, t'as des vrais joueurs de foot,
t'as
en fait.
T'as des bons, très bons joueurs de foot.
Ça va se maintenir tranquillement. Lopez, ça va jouer le ventre mou, c'est très bien.
C'est des petits joueurs de Ligue 1 qui sont pas exceptionnels.
Moi, je suis un fan de Lismilou. Techniquement parlant, c'est un très beau joueur de football.
T'as récupéré Ikoné aussi.
Ikoné aussi.
Simons.
T'as Kebal pour moi,
c'est le maître, aussi qui est un très bon joueur de foot.
Pour moi, c'est le maître à jouer du Paris FC.
Après, derrière, tu vas être un peu faible, je pense, pour aller taper le top 8.
Otavio,
tu seras un peu en dessous.
Même Otavio, j'arrive pas. Et là, t'as Marie Traoré aussi qui a été recruté.
Mais c'est bien déjà. Si tu...
Ils ont un très bon gardien aussi, le gardien.
Ils ont fait un bon recrutement, justement. Il y a un mixte entre expérience de Ligue 1, avec la Marie Traoré, les Smelou,
Simon.
Ouais, et t'as des joueurs qui sont talentueux.
T'as Camara ou Terrain qui est pas mauvais. Franchement, c'est une. Après, t'as Goebbels pour l'instant qui est pas. Je le trouve pas encore. Il rate beaucoup de choses.
Non, mais c'est une bonne première étape. Je pense que
l'objectif cette saison, c'est le maintien.
Il crée des occasions.
Et ça va se maintenir, le Paris.
Je pense que ça va se maintenir.
Et la saison prochaine, ils mettront l'argent qu'il faudra pour aller chercher l'Europe.
Pourquoi pas, comme Brest, et nous faire rêver.
Brest d'ailleurs qui revient très bien aussi, ça a souligné aussi, qu'il avait fait un début de saison
avec Del Castillo.
C'est bien, c'est mérité, parce que sur leur premier match, ils n'étaient pas payés. Ils perdaient des matchs, mais c'était à chaque fois, ils dominaient, ils avaient les occasions, ils ne les mettaient pas. Et derrière, ils étaient friables avec un nouveau gardien qui remplaçait Bizot et qui n'était pas au top. Là, ils ont mis coup d'air depuis quelques matchs, qui est bon, et qui jouait avant juste les coupes et qui maintenant est titulaire en championnat. Et c'est quand même une équipe de bons joueurs qu'on a vu l'année dernière à un niveau supérieur. Mais Ajorque, c'est un bon joueur, Del Castillo, c'est un bon joueur. Bradley Loco, c'est un bon joueur.
Dumbia,
c'est un bon joueur. Il y a des bons joueurs dans cette équipe. Donc c'est bien qu'ils arrivent à sortir des dernières places.
Oui, on ne va pas oublier nos amis nantais aussi. Toulouse-Nantes, Nantes qui ont mal débuté la saison, mais là qui ont pu arracher un match nul face à Toulouse. Nantes qui sont 16e quand même. Angers 17e à égalité de points avec le Havre aussi 5e. Metz 2 points. Est-ce qu'on peut déjà dire que pour Metz, ça va être très compliqué,
cette
saison, hein. C'est déjà 13 buts encaissés et 5 buts marqués. C'est un peu comme le Paris FC, hein, qui ont encaissé 13 buts aussi, mais qui en ont mis 10 de l'autre côté.
Et puis ils en ont encaissé surtout sur les premiers matchs, le PFC. Ils en avaient pris 3 contre Metz, il me semble, 5 contre l'OM. Et depuis, ça va un peu mieux. Moi, c'est Metz et Angers qui m'inquiètent beaucoup. Angers qui a perdu Le Pôle sur la dernière journée du mercato.
En plus, tu le vends à un concurrent qui jouait le maintien.
Et tu sens qu'ils n'ont plus rien là. Devant, il n'y a plus grand chose. Ça va être très très compliqué. Je pense qu'il y a très peu de qualité. Metz également. Et à contrario, j'aime bien le début de saison du Havre. Sur leur match, ils sont intéressants. Ils produisent des choses. Il n'y a pas de joueurs super connus, mais c'est des bons jeunes. Qui sont recrutés pour pas grand chose, un bon travail de Mathieu Bodmer. Et moi, je pense que le Havre va s'en sortir cette année, mais Angers et Metz, je les vois bien en dessous des concurrents, Lorient, etc., que je vois quand même un peu meilleur avec un peu plus de qualité.
Et Angers qui se fait crucifier par, tu le disais, Le Beau quand ils jouent contre Rennes, et qui se font crucifier par Labo Lascari, là, qui avait signé à Angers, qui avait fait la photo avec le maillot officiel, etc. La Ligue refuse, enfin, valide pas, homologue pas le transfert. Le joueur retourne à Lens. Lens le prête dans la foulée à Brest, et aujourd'hui il marque contre Angers. Et en fait, tu te rends compte que la saison d'Angers, elle va se jouer sur ces trucs-là aussi. Finalement, on était obligé de vendre, parce que Le Beau, t'es obligé de le vendre. La Bolascari, tu peux pas l'acheter. Et financièrement, c'est un mercato qui a été très compliqué. Je pense que ça va peser.
Quand on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, Angers, c'est le meilleur exemple. C'est que là, ils ont pas pu recruter. Et leur saison va être très 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 compliquée. Et je pense qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 1, suite à l'histoire des droits TV, qui dans la saison prochaine vont se retrouver dans le même cas. Il y a à peu près 12 clubs normalement, selon les prévisions, qui ne pourraient pas recruter l'été prochain. Donc globalement, tous les clubs, hors Monaco, Marseille, PSG, les clubs européens. Mais sinon, ça va être, on va avoir beaucoup de clubs qui vont être dans la grande difficulté, comme Le Havre l'est déjà, Lorient l'est déjà, Metz l'est déjà. Et je pense que c'est pas amené à s'améliorer, on va dire. Donc ça va creuser les inégalités.
C'est compliqué. En tout cas, Rémi Labo-Lascari, hein, on rappelle un jeune qui a à peine 22 ans et qui a déjà marqué avec Brest face à Nice. Et aussi, là, il a marqué son deuxième but, tout simplement en étant titulaire, face à Angers, qui est déjà à 2 buts en 3 matchs. Il avait joué 13 minutes juste avant. Du coup, c'est vrai que c'est...
Ça aurait été une très bonne recrue pour
oui,
Angers.
Oui, parce qu'il y avait de la place hein, devant, il y avait de la place avec Le Paul qui est parti, qui marquait quand même beaucoup de buts.
Labo-Lascari, c'est avec... un très bon joueur. Il avait explosé en Ligue 2 avec Laval. Et après, il avait été transféré à Lens. Il s'était fait les croisés dans ses premiers matchs. Ouais. Donc voilà, mais sinon, c'est un bon potentiel, je pense, pour jouer le milieu haut de tableau de Ligue 1.
Merci en tout cas. Sur la Ligue 1, il y a Rennes aussi. Rennes lance 0-0. Thauvin qui est dans la pré-liste des Bleus. Que peut-on dire ?
Excuse-moi, Rennes, hier, c'est... franchement, je les ai trouvés catastrophiques.
Mais Rennes, depuis le début de saison, c'est une
c'est
catastrophe.
Honteux. Il y a 10 contre. Ils étaient à 10 au bout de la première minute. J'ai l'impression que Lens était à 11. En fait, à domicile, ils ont la qualité de joueurs qu'ils ont. Ils arrivent pas à jouer.
Mais leur début de saison est très surcoté parce qu'ils ont braqué 2 matchs contre l'OM et l'OL. En 2 matchs qu'ils ne méritent pas de gagner et qu'ils ne doivent pas gagner. Ils les ont braqués, donc comptablement ça va. Mais sinon, dès qu'ils doivent faire le jeu contre une équipe plus faible, c'est une catastrophe. Ils n'ont pas réussi à battre Angers, ils n'ont pas réussi à battre Nantes.
En fait, ils arrivent juste à faire le dos rond et à taper quand il faut taper. Quoi.
Et encore avec beaucoup de réussite parce que le match contre Lyon, si Morton ne prend pas le rouge sur sa balayette, à mon avis, ils ne vont jamais le gagner. Le match contre l'OM, bon, il le gagne avec un but à la 94e, voilà. À mon avis, le match, tu le fais 10 fois, il ne le gagne pas beaucoup non plus. Mais dès qu'ils ont la possession et qu'ils doivent produire quelque chose, c'est une catastrophe.
Bah, je pense que Adi Hütter sera le premier coach de Ligue 1 à être viré, mais dans la foulée...
Bah, il sera le deuxième.
Mais vraiment, un peu, ça m'attriste parce
que... Non, je pense pas. Moi, j'aime beaucoup... Je pense que c'est plus le maintien qui va jouer.
Ouais, mais il peut pas jouer le maintien. Il a pas le droit de jouer le maintien. Ils ont pas mis l'argent pour qu'il joue le maintien. C'est donc clair. Quand ils vont voir qu'il joue le maintien, ils vont être obligés de le virer.
Même au delà de l'argent, quand tu vois la compo, je suis désolé.
Mais t'as doublette d'attaque, elle vaut 40 millions. Hein. Le Paul Mbolo, c'est 40 millions.
Papier,
hein,
sur papier, t'as des Cissé, t'as Fofana, t'as Merlin, t'as Blas, t'as Camara.
Ouais, t'as fait un gros recrutement. C'est pour ça que il pourra pas jouer le maintien.
T'as Jacquet derrière, qui est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 pour moi.
Même le Paul, là, tu veux l'avoir. Pour moi, tu peux pas jouer le maintien.
Et c'est pour ça que moi, je pense que ce sera le deuxième. Et ça m'attriste parce qu'il y avait une détestation d'Habib Bey pour son passé de consultant. Où il parlait bien, etc. Et les gens, en général, ils n'aiment pas trop quand tu parles bien. Et quand tu es à l'œuvre, ils veulent vite te voir sauter. Sauf que là, visiblement, bah, quand tu le vois sur le... Bah, je suis désolé, on expliquait qu'ils n'arrivent pas à faire le jeu. Sauf qu'Habib Bey nous a toujours expliqué que lui, il y a une équipe qui fasse le jeu, une équipe qui presse haut, qui fait mal. Etc. Bah, là, ça ne se traduit pas. Et c'est triste, mais je pense que ça va être... lui aussi, prochainement, ça va partir.
Parce que Rennes, c'est top 8 obligatoire. Quand on compare avec les autres équipes qui font pas recruter, etc., Rennes, c'est un budget. Ils sont à quasiment 200 millions de budget. Ils ont des joueurs à toutes les lignes qui ont des salaires de fou. Parce que Rongier, s'il quitte l'OM pour aller à Rennes, parce qu'il y a un salaire de fou. Fofana, qui revient pour aller à Rennes, il y a un salaire de fou. Mbolo, qui quitte Monaco pour aller à Rennes, pareil. Donc les mecs, ils sont payés comme des top 3 Ligue 1. Ils doivent finir européen, c'est obligé.
Et ce qui est handicapant pour Habib Bey, c'est pas un mariage d'amour, mais c'est un mariage de raison. On le prend parce qu'on peut pas prendre Franck Hez. Je crois que c'est à l'époque le DS de Rennes qui était déjà à Nice.
À Lens,
qui veut partir à Rennes et qui veut prendre Franck Hez. Il ne peut pas parce que l'autre vient de signer à Nice. Donc, c'est pas, tu prends quelqu'un parce qu'il faut prendre quelqu'un. Et celui qui était le plus beau sur le papier à prendre à ce moment-là, c'était Habib Bey qui était libre. Et je pense que dès que tu pourras le sauter, bah, tu vas le sauter. D'ailleurs, il y avait une mésentente entre lui, enfin entre le bord, la partie sportive et le coach. Et je pense que, oui, je ne suis pas sûr qu'il arrive jusqu'à janvier à Habib Bey.
Mais je ne sais pas à quel point il est libre de ses choix, parce que là, on voit dans ses choix d'hier, par exemple, privilégier Mbolo à Kader Meïté, Kader Meïté qui était rentré face à Lyon, qui avait été super fort, et à chaque fois, globalement, qu'il rentre, il est très bon, et on ne lui laisse pas sa chance sur le long terme, on préfère remettre Mbolo match après match après match, alors qu'il est toujours mauvais. Je me demande à quel point il n'est pas un peu prisonnier des statuts aussi à Habib Bey. Au début de saison, on a vu que Djaoui Cissé, il le mettait souvent sur le banc, alors que pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de cette équipe-là. Sauf qu'il y avait Rongier, il y avait Fofana, donc des plus gros.
Mais là, Rongier était sur le banc.
Rongier, parce qu'il revient de blessure, donc je ne sais pas à quel point Cissé est sorti à la 30e. Mais pour moi, il devrait faire plus confiance aux jeunes, qui est quelque chose qui marche
souvent.
C'est
ce qu'il a fait dès le début, hein, quand il est arrivé.
Ouais.
Il a beaucoup changé le 11 et il a mis que des jeunes qu'il a lancés où il était sûr de eux et qui lui donnaient raison parce qu'il faisait gagner
les
matchs.
Il a beaucoup dépensé. Je ne sais pas à quel point il est obligé de mettre un peu la nouvelle paire de chaussures sur le terrain, tu vois. Les Mbolo, les Merlin, il les a payés cher, il faut les faire jouer.
Merci Maxence. On va rappeler le classement. Le Paris Saint-Germain premier avec 15 points. Lyon deuxième avec 15 points aussi. Différence de but pour le Paris Saint-Germain, plus 8 et plus 5 pour Lyon. Marseille troisième avec 12 points. Égalité avec Monaco avec 12 points. Et Strasbourg aussi cinquième avec 12 points. Et Lille complète les places européennes sixième avec 10 points. Ex aequo avec Lens. Est-ce que vous pensez que Lens peut jouer le top 5 cette saison?
Pour moi, non.
En les voyant jouer
en top 5.
Pour moi, ça va être trop court parce qu'il y a des équipes qui... Bah déjà, Paris, Marseille, pour moi, ça y est dans le top 5. Et je mettrais Lille aussi. Lille qui est meilleure. Strasbourg, je les trouve meilleurs aussi, plus complets, plus, un plus gros effectif. Je pense que Lens, sur la durée...
Je suis un peu plus sceptique sur Lille, moi.
Ah, Lille, moi, je trouve quand même que dans la production, c'est fort.
Ouais, mais c'est
Fernandes
toujours ce qu'on Pardo, dit, mais...
Fernandes, Igaman, Giroud. Je pense que t'as des certitudes et t'as surtout une richesse d'effectifs que t'as pas à Lens. Lens, tu sens que Thauvin, Saïd, si ça commence à se blesser derrière, il n'y a plus grand-chose. Et à mon avis, Lens, ça va être limite, mais 6-7e, pourquoi pas.
Merci, Maxence. On va faire une petite virgule hein, avant de revenir... côté espagnol, hein, le cholismo n'est pas mort. Le cholismo n'est pas mort, on y revient juste après. De retour dans les locaux de Mon Paris FM, le cholismo n'est pas mort, le cholismo n'est pas mort. On a pu voir Diego Simeone donner une vraie démonstration tactique à son homologue Xabi Alonso, hein, tout simplement. Xabi Alonso qui a fait les mauvais choix, tout simplement. Hein, et ils n'ont pas vu le joueur, les joueurs du Real Madrid qui n'ont pas vu le jour, tout simplement. Et qui se sont fait dominer de bout en bout face à cette équipe de l'Atlético, malgré un but de Kylian Mbappé et de Arda Güler. Auteur aussi d'une passe décisive, Arda Güler, qui a été remplacé à la 60e minute. Et là, tout simplement, bah, ça a été encore plus compliqué. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, à bout de cette performance des Blancos
Déjà, c'est dire à quel point le foot, en fait, ça va, ça vient. Je me souviens, la semaine dernière, on était là, moi particulièrement, en train de tirer sur Simeone, c'est la fin, il faut qu'il parte, ça y est, l'Atlético a besoin de son neuf, etc., etc. Sauf en fait, j'ai l'impression que c'est un match prévisible. C'est un match avant le match. Tu sais que l'Atlético va le gagner. Tu sais que Griezmann va rentrer et tu sais qu'il va marquer. Enfin, c'est des choses que j'ai l'impression que tout le monde a vu. Tout le monde savait que ça allait se passer comme ça et ça s'est passé comme ça. Et là où moi, ça m'inquiète pour le Real Madrid, j'ai l'impression que le Real, c'est leurs deux plus grosses adversités cette saison. Enfin, depuis le début de saison, je le prends en juillet. Ça a été le PSG et l'Atlético. Et c'est deux matchs où finalement, tu t'en ressors avec trois buts d'écart en perdant. Donc, pour moi, à ce niveau-là, c'est un peu inquiétant pour le Real. Après, vaut mieux que ça arrive en début de saison maintenant où tu peux régler les automatismes plutôt que ça arrive un peu plus tard dans la saison où ça peut être préjudiciable. Là, je pense que Xabi Alonso, c'est un coach assez intelligent et il va voir ce qui ne va pas aussi dans son équipe et peut-être aussi trouver un équilibre peut-être qui manquait mais qu'on ne voyait pas parce que tu joues contre des équipes contre lesquelles tu domines.
C'est un coach assez jeune quand même, hein. Xabi Alonso, on rappelle, hein, il a juste entraîné... le Bayer Leverkusen et juste avant le Bayer Leverkusen il
c'était la Sociedad mais c'était les B
ouais. Les jeunes ouais.
Les jeunes de la Sociedad mais après avec Leverkusen il avait fait plutôt des belles choses mais ça reste quand même un jeune minot hein, parce que le cholismo ça fait un moment qu'il est là et c'est pas à lui qu'on va apprendre à faire la grimace tout simplement et il a su tout simplement, on a pu voir première mi-temps rentrer 2-2, c'était même inespéré pour le Real hein, de rentrer avec un 2-2 et il a su tout de suite où attaquer hein, le cholismo parce qu'on a vu hein, Atlético beaucoup centré dans la surface. Le jeu de tête, il savait que c'était un problème ça, en mettant Sorloth titulaire, Julian Alvarez aussi qui a su marquer un très beau coup franc et qui se relance aussi, hein, Julian Alvarez qui avait connu un début de saison assez difficile hein, et qui se relance avec le match d'avant avec un triplé et là avec deux buts, ça lui fait déjà 5 buts, il remonte déjà dans le top des buteurs assez rapidement. Qu'est-ce que t'en as pensé toi Maxence de ce match là? Je te voyais un peu dire mon de la tête, t'étais pas forcément d'accord avec les propos de Abou, tu peux nous en dire plus sur
tu fais derrière mon dos.
Non, parce que à bout, tu disais que c'était annoncé un peu le scénario de ce match-là. Et moi, pour le coup, je l'imaginais pas du tout comme ça. La semaine dernière, justement, je vantais un peu le Real, le fait qu'il y ait un nouveau projet, qu'on voit de l'amélioration en Liga contre les petites équipes, que Mbappé soit redevenu le nouveau Mbappé, etc. Enfin, l'ancien, du coup. Et là, j'ai rien quasiment revu de tout ça et ça m'a beaucoup déçu sur le premier gros choc de la saison. J'attendais quand même un visage différent et en fait, ça ressemble quand même au visage du Real d'Ancelotti l'année dernière sur les gros matchs. C'est-à-dire que quand en face, il y a de l'adversité, tu perds, mais pas seulement tu perds, tu prends une fessée. C'est que l'année dernière, dans les Classico, t'en as pris à chaque fois 4, 5. Là, pareil, Atlético, t'en reprends 5 encore. C'est beaucoup. Et pour moi, il y a différents fautifs à différents étages. Xabi Alonso est fautif parce que pour moi, il a fait un... Quand on parlait de coaching de statut avec Habib Bey, il a fait exactement ça. Ne pas sortir Bellingham à la 60e pour sortir.
Bah en fait, le mettre titulaire, tout simplement, parce qu'il revient de blessure.
Exactement.
Et tu sais qu'avant ça, ça roulait assez bien. Pourquoi Bellingham là, qui... le mettre au charbon comme ça, dans un match comme
Bellingham
ça
Bellingham qui, logiquement, n'est pas dans le rythme. C'est normal, il n'est pas dans le rythme. Et donc, en plus, tu fais la première connerie de le mettre titulaire. Et la deuxième, c'est de le laisser. Sors-le à 60e. Laisse Arda Güler qui marche sur l'eau, qui est très fort.
On a pu voir la passe au moindre petit truc qui s'est passé. Bah, c'est la passe envers Mbappé, la bonne passe, Mbappé qui finit. Et le deuxième, il est au bon endroit, au bon moment, et il te met le but. Du coup, un but, une passe D en même pas 60 minutes, tu ne peux pas sortir un joueur comme ça.
D'accord.
En plus, tu vois que c'est le nouveau métronome, c'est le créateur. On voit dernièrement le nombre de passes décisives qu'il peut faire ou le nombre de passes clés qu'il peut faire dans le jeu. Et c'est là que tu te dis, ah oui, le jeu du Real a changé. Mais c'est grâce à Arda Güler. C'est grâce à Arda Güler au milieu de terrain.
Parce que là, on a trouvé
qui fait le lien, qui fait ses passe là.
Après, le deuxième tiroir que j'ai envie d'ouvrir, c'est aussi les joueurs. C'est-à-dire que l'année dernière, on a beaucoup taillé Carlo Ancelotti, à raison, parce qu'il ne mettait pas dans les bonnes conditions, etc. Mais on ne peut pas continuellement taper uniquement sur l'entraîneur. L'entraîneur, il a sa part, c'est sûr. Après, il y a des joueurs dans cette équipe qui ne correspondent pas à leur statut. Du moins, qui n'ont pas un niveau qui correspond actuellement à leur statut. C'est que derrière, c'est faible. Derrière, c'est très faible. Et même moi, il y a des joueurs qui me dérangent. Je suis désolé, le niveau de jeu d'un Valverde, ça ne correspond pas à être milieu de terrain au Real Madrid. C'est pas possible. C'est que tu peux être le porteur d'eau quand à côté, tu as des génies qui étaient avec Modric et Kroos. J'abuse, mais on peut tous jouer à côté de Modric et Kroos. La vie, elle est plus facile, je pense. Par contre, quand là, il se retrouve leader de ton milieu de terrain à animer un double pivot avec Tchouaméni, parce que Tchouaméni, on lui a beaucoup tapé dessus l'année dernière, mais Tchouaméni, pour moi, il n'est pas plus mauvais que Valverde aujourd'hui.
Non, et cette saison, il est très bon. Même.
Exactement.
Faut le dire, cette saison, il est très bon. Même.
Et Valverde, le niveau pour un vice-capitaine du Real Madrid, je trouve ça très, très compliqué. Le mec refuse de jouer côté, refuse de jouer latéral parce qu'il se plaint dans des interviews aujourd'hui encore, la veille de Ligue des Champions. Il est en interview, il dit non, moi latéral, je ne suis pas né pour jouer latéral. Le coach le sait, etc. Donc, en plus, il utilise son poids pour mettre un peu la pression. Mon grand, si tu mets la pression dans les interviews, il va falloir être meilleur sur le terrain aussi. Et même des joueurs comme Rodrigo qui rentre sur la fin, même Vinicius, je suis désolé, Vinicius, il donne un beau ballon de but, mais dans le global, c'est pas assez. Je trouve que c'est pas assez d'un prétendant ballon d'or, d'un joueur top 5, top 10 monde. C'est pas assez. Mbappé, il tient son statut. Pour moi, c'est un des seuls qui reste là globalement et il est létal, il en a une, il la met. Mais je suis très déçu du Real et on n'enterre personne. Hein, mais je les voyais champions et je les voyais plutôt complets et meilleurs que leurs adversaires cette saison. J'attends de voir le prochain gros match, mais je suis un peu plus inquiet, on va dire.
Merci Maxence. Alfred, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce match entre l'Atlético et le Real Madrid?
J'ai regardé un peu le match, mais pour moi, personnellement, ça reste deux grands clubs, d'accord? Et puis, je ne pense pas que le Real allait ridiculiser l'Atlético, parce que c'est des grands rendez-vous comme ça, les joueurs s'y mettent. Donc pour moi, le coach surtout de Simeone a été parfait. Maintenant, bon, comme tu as souligné, ma foi, l'arrivée de Xabi Alonso, il est jeune. Bon, aujourd'hui, peut-être les enfants du Real, un club imbattable, mais non, ce qui est arrivé, 5-2, c'est à féliciter l'Atlético, parce que l'Atlético, je me rappelle bien, il y a longtemps, quand ils avaient gagné, quand ils ont été champions, je ne sais pas si ça se rappelle des années, là, ou une année d'exploit.
Oui, c'était 2020, voilà,
ce coach-là avait fait un bon travail. Donc pour moi, qu'il gagne aujourd'hui, c'est quelque chose qui est là, qui a très longtemps. Donc pour moi, l'Atlético n'était pas aussi, minable qu'il fallait. Donc même si le Real reste un grand club, pour moi, ils se sont battus jusqu'au bout. Donc je félicite leur victoire.
Merci Alfred. Salson, qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Je rejoins les propos de Max. Après, moi, franchement, je m'attendais à un match vraiment plus équilibré. Et là, des habitants, ça a été waouh. Ça a été rapide. Ça a été... L'Atlético, ils ont plié le match. Enfin, un but de Griezmann après plus de 20 matchs sans but.
22 matchs.
Après le Real Madrid, je rejoins Max sur ça. C'est que j'ai l'impression qu'on repart sur. Là, sur le début de saison, je disais, ah, ça commence à prendre forme, etc. T'es Mbappé qui enchaîne les buts, etc. etc. Et là, franchement, j'ai rien compris. Là, on dirait que le Real face au gros, ça va être, cette saison, ça va être peut-être la même chose que l'année dernière. Je ne sais pas. J'attends de voir. Peut-être qu'ils vont rectifier le tir. Mais ce Real-là, franchement, ça, j'ai l'impression que plus on avance, moins ils font peur. Moins ils font peur et je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas le Diego Simeone à a bien préparé son coup.
Mais parce que c'est vrai que si tu réfléchis, le dernier gros match remporté par le Real, ouais, c'est contre City. Mais un City qui était très malade en Ligue des Champions City, il y a un an.
C'était
un,
donc, c'est, ouais, c'est tiré sur la fin.
Mais sinon, depuis, dès que tu as joué une grosse équipe, bah, Barça, Arsenal, Barça, tout Arsenal, tu n'en gagnes aucun des deux. Barça, tu prends claque sur claque. Coupe du monde des clubs, le PSG, tu en prends une. Là, Atletico, t'en prends une. Donc, il va falloir rapidement qu'il y ait dans un gros match un réveil et un coup de poing sur la table. On se dit, voilà, c'est le Real et on va pas non plus être paillasson à chaque fois.
On peut peut-être être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression, on le disait la saison dernière, peut-être Mbappé a déréglé cette équipe, je sais pas. Mais malgré qu'il marque, mais là, les Vinicius...
Mais moi, j'étais d'accord l'an dernier avec ça, le fait que Mbappé joue sur l'équilibre. Non. Mais au bout d'un moment, les autres, il faut qu'ils prennent la responsabilité aussi. Parce que là, Mbappé, il a son niveau. Lui.
Il n'a rien à dire. Mais là, t'as un Vinicius, il est mort. Bellingham, ouais, comme t'as dit, là, quand j'ai vu titulaire, j'étais même étonné. Parce que le mec, il revient blessure. Il n'est même pas 100% de ses capacités sur un gros match.
Peut-être parce qu'il a fait des bonnes rentrées.
Ouais, mais tu sais, ouais, peut-être.
C'est ça, il a fait des bonnes rentrées en vrai, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui,
tu sais, il faut que ça aille crescendo. En plus, tu peux le casser mentalement.
Puis, un Vinicius, l'année dernière, il y avait l'excuse du ballon d'or, ça lui a un coup sur la tête, etc. Mais là, au bout d'un an, grand, va falloir que soit tu t'y remettes, ou soit alors tu vas redevenir un joueur lambda.
Si dans les 6 mois, il ne se réveille pas avant la prochaine trêve, pour moi, il est KO.
Parce que les joueurs ont tous des passages à vide, ça arrive. Dans n'importe quelle carrière. Sauf que là, un an et demi, deux ans de passage à vide, c'est quand même compliqué. À 25 ans.
Il est peut-être en dépression.
Peut-être. Mais dans ce cas-là.
Excusez-moi, moi, je me trouve quand même deux ans, non. Même un an de dépression côté Vinicius.
Non, je pense pas, c'est trop.
Mais je pense que. Non. Le Ballon d'Or a été annoncé là. Le Ballon d'Or a été annoncé en octobre. Mais excusez-moi, mais moi, la saison dernière, même quand Mbappé était là, Vinicius restait le patron en début de saison. C'est lui qui faisait gagner les matchs. Même contre Dortmund, quand tu perds deux et tu mets un triplé.
Mais le Ballon d'Or. C'était il y a un an, ça.
C'était avant le Ballon d'Or. Ouais. C'est ce que je dis. C'était avant le Ballon d'Or. Et après ça, ça a été moyen. En début de saison, là, ça va. Il a été mis sur le banc une, deux fois. Dès qu'il est rentré, c'est but, passe D. Il rejoue le match d'après. Il te met but, passe D.
Mais Vinicius, on n'attend pas que ça va. On attend que ce soit exceptionnel.
Oui.
Si c'est un mec top 5 monde, on attend que ce soit.
Bien sûr. Mais maintenant, il faut qu'il remonte crescendo.
Moi, j'attends pas pareil de Vinicius que de Mastantuono, tu vois. C'est pas genre Mastantuono va lui passer des choses, il fait une petite passe D, un petit but par-ci par-là, c'est bien, etc. Vinicius, j'attends que ce soit le top niveau qui fasse basculer les gros matchs.
Ouais, c'est pour ça que je dis, si dans les 6 prochains mois, là, il n'y a pas de réveil ou autre, pour moi, il est KO.
Moi, je pense qu'il commence à revenir. Ouais, le match d'avant, l'extérieur qui te met, ça se voit que c'est un joueur en confiance, tu vois. Ça, sinon, il te le tente même pas à l'extérieur, tu vois.
Parce que c'est le. On a été habitué à voir le Vinicius qui portait le Real Madrid, qui. Voilà, tu vois.
Là, c'est sûr qu'il peut plus le porter parce qu'il doit jouer pour quelqu'un. Là, il joue pour Mbappé.
Bien sûr.
Mais du coup, ce que Salé dit, c'est vrai, l'arrivée d'Mbappé a déréglé quelque chose, qu'on le veuille ou non, même si lui, il est très bon. Ça a mis un.
Quand on dit déréglé, c'est pas que c'est un... dans le côté mauvais.
Non, bien sûr.
C'est que voilà.
les gens autour d'eux, même eux, peut-être qu'il y a un truc de. Il y a quelque. Faut peut-être revoir l'effectif du Real.
Et après, il y a aussi un élément, c'est que défensivement, t'es plus au niveau du Real qui gagnait les titres et les trophées.
Avant, t'avais un Ramos qui tenait la ligne de 4. Maintenant, t'as personne.
Mais même après ça, quand t'as eu Varane, c'était quand même un autre niveau qu'aujourd'hui ce que t'as là.
C'est catastrophique. Mais ça date de la saison dernière. La saison dernière, c'est catastrophique.
Ouais. Non, mais là, c'est vraiment. Enfin, là, Huysen, que j'adore, qui est un joueur qui est propre, qui est élégant, etc. Mais son match, c'est une faute professionnelle. Quand le mec il saute pas pour aller au duel, lui qui se cache, on dirait un 8. C'est très très compliqué. Carreras, qui faisait plutôt un bon début de saison, il a pris le bouillon. Il a pris le bouillon et c'est inquiétant parce que tu te dis quand il va croiser les Olise, Yamal, qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'on l'a jamais vu à ces altitudes-là. Donc en Liga, ça va aller. Mais quand il va commencer à croiser les top ailiers du monde, ça va peut-être être compliqué. Et latéral droit, il y a Carvajal qui s'est blessé, Trent qui est blessé aussi, donc Valverde qui va peut-être dépanner, mais c'est du bricolage. Mais c'est un peu du bricolage.
C'est du bricolage, clairement. Mais c'est ce qui est. Le Barça qui se sont imposés 2-1, hein, le génie Lamine Yamal qui est rentré au bout de 30 secondes, qui a délivré une passe décisive, qui a fait une virgule petit pont. Il a fait le show un peu comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce Barça à bout?
Le Barça, moi j'ai l'impression que c'est très bon, hein. C'est la continuité de la saison dernière. Pour moi, c'est même le favori à la Ligue des Champions. À la Liga, pour moi, le favori c'était le Real Madrid, mais.
Sur un match, vous remettez tout.
Non, c'est pas que sur un match, le Barça. C'est
on l'avait annoncé la semaine dernière en faisant les pronostics.
C'est la continuité vraiment de ce qui se passe la saison dernière. Hansi Flick, excellent coach, l'équipe elle est bonne. Lamine Yamal, visiblement, le fait de ne pas avoir le ballon d'or, ça l'a pas plus impacté que ça. Il s'est remis de son problème.
C'est pas comme si c'était un vol non plus. Déjà qu'il est deuxième, je pense qu'il va être.
Ça aurait pu l'attendre, puisqu'il aurait pu prétendre au.
Il est jeune, le mec, il a 17 ans.
Ouais, mais ça aurait pu le. Il y en a d'autres que ça aurait touché en tout cas. Donc, mais c'est bien. Non, moi, je trouve que le Barça, pour moi, c'est une des meilleures équipes au monde aujourd'hui. Si ce n'est pas la meilleure.
Et là où je trouve que c'est fort, c'est que le match, il le démarre avec beaucoup de titulaires en moins. Rafinha qui n'est pas là. Le gardien, Joan Garcia, qui n'est pas là. Yamal qui n'est pas là. Et malgré ça, il décide de ne pas mettre Olmo pour faire confiance à Dro, un jeune, parce que Olmo ne répondait pas présent sur les dernières sorties. C'est un match qui est contre la Sociedad.
Je pense qu'il voulait faire tourner aussi en vue du match de Ligue des Champions.
Aussi, mais tu n'avais pas Firmino non plus. T'avais pas... Enfin, tu vois, il te manque quand même du monde. Et malgré ça, tu décides de te passer d'Olmo. Yamal, tu le fais rentrer seulement à la fin. Et en Ligue des Champions,
La fin qui te fait la différence quand même. Bien parce sûr, que sinon, sûr. Avant ça, c'est pas un match facile quand même.
Non, bien sûr, c'est pas un match facile.
Contre la Real Sociedad qui font un très mauvais début de saison.
Après,
quand même.
Il te manque 4-5 titulaires. Ouais. C'est normal que ce soit pas tout le temps facile non plus. Mais d'ailleurs, le match PSG-Barça, on y reviendra. Mais il y a des absents des deux côtés, donc ça va être c'est dommage.
Mais PSG, c'est beaucoup plus.
On en reparlera. On
y revient.
On y reviendra. Et pour moi, c'est ce qu'on disait l'an dernier. Dembélé mérite son ballon d'or. Et c'est sa saison, c'est son ballon d'or. Mais le meilleur joueur du monde en ce moment, c'est Lamine Yamal. Et sur un terrain de foot.
C'est pas Kylian Mbappé ?
Non.
Je suis plus impressionné par Yamal que par Mbappé.
Impressionné par le show,
pas que par le show, même dans
Yamal, il fait des choses que les autres sont pas capables de faire.
En fait, au stade, tu payes pour aller voir qui ? Je paye plus facilement pour aller voir Yamal que
Mbappé. Mais
c'est même pas que ça,
même au-delà du show.
Parce que le mec, il rentre, il fait gagner.
Il marque, il passe. Quand il est pas là, tu sens qu'il est pas là.
Exactement. Et dans le jeu collectif, parce qu'il y a pas que la stat, c'est que hier il marque pas, mais il change tout le match. Il te change tout le match. Il te donne deux ballons de but. Il y en a un qui va au fond, il y en a un qui va pas au fond. Il te libère toutes les situations chaudes. Parce que toutes les situations chaudes, les mecs se retournent que vers lui pour lui donner les balles en bourbier, en mode il va s'en sortir. De toute façon, il va nous faire un truc. Et c'est exceptionnel.
Mais là, la différence avec le Real, c'est que là, tu as plus l'impression que tout le monde est d'accord pour jouer pour Yamal, contrairement au Real. Je sais pas si tu vois en venir.
Ouais.
C'est plus compatible de jouer pour Yamal que pour Mbappé.
Oui, cette saison peut-être, mais l'année dernière, t'avais quand même Rafinha qui faisait une saison de fou. T'as Lewandowski qui avait un statut quand même.
Je te dis qu'en gros, cette équipe-là, qu'il y a mal ou pas, ça va pas dérégler l'équipe.
Ouais, bien sûr. Mais aussi parce qu'ils sont tous éduqués dans le même.
Ça dérègle quand même un peu l'équipe. On voit le Barça sans Yamal et le Barça avec Yamal.
Oui, mais je veux dire, quand il est sur le terrain, tu vois, les gens.
Je préfère avec quand même.
Ouais, mais vous voyez, si vous avez vu les matchs sans Yamal, là, les 3-4 matchs sans Yamal, vous voyez qu'il y a une différence
après,
quand même.
T'enlèves Mbappé du Barça, il y a une différence. Du Real, il y a une différence. T'enlèves Dembélé du PSG, il y a une différence.
T'enlèves Greenwood du Barça.
T'enlèves Greenwood. Ouais, je parlais pas du même. T'enlèves Kane du Bayern, je pense qu'il y a une différence aussi. Enfin, c'est Haaland de City, il y a une différence. C'est aussi le propre des grands joueurs. C'est comme ça.
Merci Maxence. Merci à vous. On va poursuivre tout simplement avec la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, le Real Madrid qui vont affronter le Kairat Almaty. Je pense que ça ira, mais le voyage sera long, hein, plus de 10 heures de vol d'avion. Du côté de Marseille, vont affronter l'Ajax au Vélodrome. Hein. C'est un match à la portée des Marseillais. On y revient dans quelques minutes. Ligue des Champions, le Real Madrid vont affronter Kairat Almaty pour leur deuxième journée de Ligue des Champions. Marseille qui vont recevoir l'Ajax au Vélodrome. Le PSG qui iront défier le FC Barcelone, tout simplement, mais amoindri, hein, avec un effectif très 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 amoindri. Liverpool joueront face à Galatasaray. Hein. Attention, l'ambiance des Turcs à domicile en Ligue des Champions, ça promet d'être quelque chose. C'est un match aussi à vivre, bien évidemment. Atlético de Madrid recevront Francfort et Atlético pourront bien se lancer. Manchester City qui iront au stade Louis II à Monaco. Monaco qui ont pris 4-1 face à FC Bruges et qui vont recevoir Manchester City pour leur deuxième match. Ça n'est pas tâche facile. Quels sont vos favoris sur ces matchs de Ligue des Champions et quels sont les chocs que vous retenez aussi pour ces matchs-là ? Alfred ? Le Bayern qui vont affronter en Ligue des Champions. Excuse-moi Alfred, tu peux juste parler dans le micro. Le Bayern qui vont affronter Paphos.
Je pense que l'affiche qui retient tout le monde, c'est Barça PSG en vrai.
Sans être original. Après, il y a pas mal de retours côté PSG, il me semble. Oui. Il me semble que Vitinha sera là, Fabien Ruiz sera là au milieu.
Pas sûr.
Désiré Doué sera là, Barcola sera là.
Non, Désiré Doué.
D'après ce que j'ai lu, Désiré Doué dans le groupe. Barcola aussi. C'est qu'il manquerait Dembélé, il manquerait João Neves, Marquinhos.
Ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà suffisant.
Alfred ?
Moi, le Barça contre le Real Madrid, je pense que le Barça devrait gagner, de façon honnête.
Pour moi, tu dis ça à cause des blessures ou toi, tu penses même...
Non, pas forcément. J'ai vu le match face au Real Sociedad, le Barça a d'énormes qualités au niveau de l'attaque. Ça s'arrête pas. Donc, quelque part, pour moi, franchement, j'ai un peu peur pour le Paris Saint-Germain. Ça, je vous dis de façon honnête.
Carrément. Après, peur pour le Paris Saint-Germain, pour le grand Paris Saint-Germain, qui sont champions en titre de cette Ligue des Champions.
Je suis d'accord avec toi, El Hadj, mais bon, pour moi, j'ai un peu de réserve, quoi, parce que le Barça joue très bien au football, faut pas le cacher. Même si le Paris Saint-Germain reste champion, je ne reste pas fervent supporter du Paris Saint-Germain. Mais moi, je pense que le Barça va gagner, à mon avis.
Du coup, toi, c'est le match qui retient ton attention journée de Ligue des Champions.
Voilà. Tout à fait.
Après, quoi qu'il arrive, et peu importe le résultat, ce match, pour moi, il n'a pas une grande importance. Il n'a pas une grande signification. Ça va faire beaucoup de papiers, beaucoup de médias, etc. Mais peu importe qui gagne, ça n'augurera rien d'une potentielle victoire en Ligue des Champions au mois de mars-avril. On sait que ce n'est pas la même compétition.
On l'a bien vu la saison dernière.
Et que les deux se qualifieront de toute façon. Donc, on verra plus tard. Mais là, ça donnera éventuellement des petits indices sur le début de saison, mais rien de plus.
Merci Maxence. Est-ce que tu partages les propos de Alfred Salson, toi supporter Paris Saint-Germain? Est-ce que tu penses qu'il faudrait être inquiet pour le Paris Saint-Germain qui vont aller...
Inquiet. Bah non, pas inquiet. Justement, moi c'est un match où j'ai envie de voir ce que le Paris Saint-Germain va produire, va proposer avec tous ces absents-là. On va voir ce que ça donne. Là, on prend la vie un peu samedi contre Auxerre. Bon, il y avait les petits jeunes, mais... Même Barça, il y a quelques absents.
Rafinha, Joan Garcia.
Ça va être un match.
Gavi,
Fermin. Je ne pas équilibré, mais c'est pas, il y a pas un écart. À voir. Mais ça va être un match. Je sais pas. Mais je vois pas le PSG se faire ridiculiser ou être inquiet. De là,
personne
ne
fera ridicule.
Après inquiet, je sais pas inquiet de quoi. Même s'ils perdent, ils peuvent encore se qualifier. Il reste encore 6 matchs. Il restera encore 6 matchs.
Bien sûr.
Et puis voilà.
Non, le match important pour les clubs français,
Il n'est pas là.
Le match important, c'est le retour de Ligue des Champions dans le plus grand stade de France, au Vélodrome. Hein? Et là, c'est très important. Là, c'est parce que si tu enchaînes avec une victoire contre l'Ajax, là, ça te fait vraiment une quinzaine exceptionnelle. Entre victoire contre le PSG, victoire contre Strasbourg, victoire contre l'Ajax, là, t'es au max. Et par contre, en cas de défaite, autant de côté PSG ou côté Barça, s'il y a défaite, c'est pas très grave. Autant là, contre côté OM, si tu perds ce match-là, pour moi, la qualif, elle est déjà en grand danger.
C'est des points à prendre.
C'est des points à prendre parce que derrière, il n'y en a plus beaucoup des points cadeaux. Là. Tu vas jouer Liverpool, tu vas jouer Newcastle, c'est compliqué. Atalanta avec le retour de Lookman, c'est pas la même équipe, c'est compliqué aussi. Donc pour moi, demain, si tu prends 3 points, tu peux te mettre déjà en milieu de tableau et après aller grappiller en Belgique, au Sporting, voilà, des petits points. Si demain, tu ne les prends pas, il va falloir faire des miracles et à mon avis, ça va pas être facile. Donc,
ça va être le ton de la suite, on va dire.
Demain, pour moi, victoire obligatoire pour l'OM et tout autre résultat qu'une victoire serait un échec.
Ça a le mérite d'être clair, en tout cas, supporter marseillais, ça a le mérite d'être clair. Abou, toi, est-ce que tu es du même avis que ton homologue Maxence sur ce sujet-là? Pour toi, il faut la victoire tout simplement demain au Vélodrome et rien d'autre?
Victoire obligatoire, je sais pas, mais c'est sûr que c'est un match qui est à la portée des hommes de Roberto De Zerbi. C'est un match qui est à domicile, c'est un match qui célèbre le retour de la Ligue des Champions au stade Vélodrome. Donc c'est un match qu'il faut gagner contre un Ajax qui n'est pas un Ajax de la grande époque, qui n'est même pas un Ajax d'il y a 3-4 ans, voire 4-5 ans, l'Ajax qu'on avait. Donc c'est un match que tu dois remporter, mais très personnellement... Je crois qu'il y a, qui est forfait côté Marseille.
Tu dois avoir Ahmed Traoré.
Il y a Ahmed Traoré, il y a un autre joueur, là, Balerdi qui sera probablement forfait. J'irai pas jusqu'à dire c'est pas une grosse perte, mais c'est pas la plus mauvaise nouvelle en tout cas.
Il a été bon contre Paris.
Il a fait un bon match.
Il est mieux dans un système à 3 où c'est pas le leader, il est bien.
Mais non, je pense que c'est un match qui est à la portée des hommes de Roberto De Zerbi. Et je pense que c'est un match aussi qui doit valider en fait, cette quinzaine. C'est un match qui doit entériner cette quinzaine, montrer que voilà, l'Olympique de Marseille, cette saison, c'est ça. Vous aurez le droit à ça. On s'est mis sur ce rythme-là jusqu'à la fin de la saison. On restera sur ça. Donc, j'espère que les Marseillais vont gagner. Après, pour Barça-PSG, pareil, il n'y a pas de quoi être inquiet. Quoi qu'il arrive des deux côtés, c'est deux équipes qui, je pense, vont se qualifier. deux équipes qui, je pense, vont se retrouver en plus en se qualifiant dans le top, qui seront dans le top 8 des qualifs. Et oui, non, c'est pas un match qui va prédire l'avenir, l'avenir des deux équipes. Donc, peu importe qui gagne. Après, c'est sûr qu'il faut pas une, faut pas une fessée, ça c'est sûr. Faut pas que l'un ou l'autre prenne 5-0. Ça fera parler. Ouais. Mais si tu perds 2-1, 2-0, 3-1, il n'y a rien de dramatique.
Merci. Oui, Alfred ?
Ouais, mais t'as battu le champion quand même. C'est ça qui compte.
En poule, je suis pas sûr que ça compte vraiment.
Un champion affaibli. S'il
est cogné en demi-finale.
Ouais, un champion affaibli, ouais.
Un champion affaibli.
Et même à l'inverse, si Paris gagne contre le Barça, ça n'augure rien. Enfin, c'est une belle perf de plus, mais ça n'augure pas le fait que...
Comme j'ai dit, le PSG est affaibli. S'il gagne, bah, tu diras, l'équipe bis fait peu...
Non, pas l'équipe bis. L'équipe bis, l'équipe bis, c'est quand t'as 11 joueurs qui sont pas là et tu remplaces.
T'as combien de joueurs qui sont absents là?
Je t'ai dit, t'as Marquinhos, Dembélé, João Neves.
Et d'où il est là?
Normalement, il est là. Bah, voilà aussi.
Ouais, mais tu sais que c'est des joueurs qui seront.
Ils sont pas en forme,
c'est oui, non, mais d'accord.
Ils sont même pas à 100%.
Oui, mais en face, t'as Yamal qui se relance, t'as Rafinha qui est pas là, Johan Garcia qui est pas là, donc t'as aussi des absents de l'autre côté. Donc, quoi qu'il arrive, c'est des matchs.
Quand je te dis qu'il bus, tu vois, t'as quand même un PSG, voilà, qui est pas au top de sa forme. Et tu l'as vu samedi, d'ailleurs, regarde tous les jeunes qui sont rentrés, t'as au moins 3-4 jeunes qui sont rentrés.
Oui, mais
une équipe
après. T'inquiète pas qu'ils joueront pas.
Tout le monde d'accord.
Oui, mais Jantou, il jouera pas contre le Barça.
Ouais, ben,
t'inquiète pas, il va remettre les cadres et ça va rouler.
À prime, si tu préfères. Voilà.
Donc en demi-finale d'équipe Japon, et d'ailleurs, t'as éliminé l'équipe bis d'Arsenal, c'est ça que t'es en train de me dire?
Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit du tout. Ouais.
Merci Maxence et Salson. Du coup, les matchs, oui, il y a Monaco-Manchester City. Hein. Qu'est-ce que vous voyez là-bas, le déluge côté...
On parle de football
score
ici.
Score de tennis.
On parle pas de tennis. Ça s'appelle au bout du foot, pas au bout du tennis.
Ok, d'accord. Vous avez des punchlines.
Pour vous, City, ils vont écraser Monaco.
Ah, je pense que...
Attention, parce que Monaco...
Alors, il refait ses stats en Ligue des Champions. Là. Il est à 51 buts en 50 matchs. Ouais, je pense qu'il va encore...
Attendez.
Il va encore chiffrer.
Attendez, c'est la Ligue des Champions.
Justement,
bah on l'a vu, Monaco, ils ont surpris
l'année dernière.
Justement,
ils en ont surpris plus d'un l'année dernière.
Ils ont surpris aussi contre le match contre Bruges aussi.
Ils sont capables du meilleur comme du pire. Et ils ont pris 4.
J'ai vu que le pire, moi.
D'accord. Et ils ont pris 4. Je pense pas qu'ils sont aussi bêtes pour aller reprendre encore 3-4.
Non, mais c'est pas eux qui vont
gagner. Je
décider,
pense pas
en fait.
Qu'ils vont gagner. Mais
ils en ont pris 3 contre Lorient aussi ce week-end.
Ouais, bah, à tout. Oh, ils ont pris un rouge. Ils ont pris un rouge.
Ah, bah, je sais pas, moi, l'exploit dont on me parle l'année dernière, c'est justement contre le Barça, où le Barça prend un rouge à la 12e.
Bah, ils ont fait le boulot. Le Barça a pris un rouge.
Je pense que City prendra pas de rouge dans les 15 premières minutes, donc que leurs chances de gagner sont très
moi je dis attendons.
Non mais Monaco, au-delà des résultats, dans le jeu, c'est dégueulasse.
Mais c'est horrible. Il se passe
c'est
rien.
C'est dégueulasse.
Derrière, c'est nul.
Ils vont se faire tourner,
ils
nettoyer.
Ont pas de gardien, ils ont une défense qui est catastrophique avec Kerrer en leader de défense. D'ailleurs, il met plus de temps à se retourner que ma grand-mère, c'est une catastrophe. Non mais, d'ailleurs, vous avez vu l'action contre Pablo Pagis ce week-end? D'ailleurs, contre Pablo Pagis ce week-end, Pablo Pagis il fait 1-2, il passe derrière lui. D'ailleurs, n'est toujours pas retourné, la balle rentre dans le but. Bon, c'est une catastrophe. Haaland va se régaler.
J'attends de voir ça demain. Moi, je pense que Monaco peut nous surprendre.
On met un billet dessus ou pas?
Est-ce
que tu te portes garant si on met de l'argent dessus?
Tu rembourses?
Je parie pas d'argent.
Mais si nous on met de l'argent, tu te portes garant de notre argent?
Toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis que on faut pas enterrer Monaco.
Bah, moi, je les ai enterrés, fini. Hein. À la pelleteuse en plus.
On m'a toujours pris pour un fou ici, attention.
Non, attention, il avait raison pour Brest.
Brest, Dembélé, le PSG.
Brest, ils ont.
De toute façon, Monaco va beau jouer, mais au final, c'est City qui va gagner. Tu es d'accord avec moi?
Non, je te dis pas le contraire. Ah non, je dis pas que City ne va pas gagner. Je pense que quand même, Monaco va quand même essayer de se faire respecter et éviter de se prendre un score.
Est-ce que tu veux et est-ce que tu peux faire après? Franchement, moi, c'est même pas les résultats.
Je pense pas qu'il perd plus de buts. Je pense.
Moi, c'est même pas moi, c'est vraiment dans le jeu, je trouve qu'il n'y a pas de. Enfin, à part Ansu Fati qui, du coup, est la belle surprise de ce début
Zakaria,
de saison.
Zakaria, il est où là?
Il est blessé.
Il est toujours blessé. Depuis qu'il est plus là, c'est la merde.
Non, mais c'est pour ça que je te dis, dans le jeu, même Monaco, c'est compliqué.
Ben Seguir, ils l'ont même pas remplacé.
Non, ils l'ont vendu à la dernière journée. C'est
une catastrophe.
Et Akluj.
Golovin est blessé.
Akluj, il est plus dedans.
Il a pas trop envie d'être là.
Il est plus dedans.
Il devait partir. Et au final, il est pas parti.
Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est ta défense. Ta défense. Tu joues avec Dyer, Kerrer et avec un gardien. Mais le gardien à Monaco, ça a toujours été un problème depuis Subasic, mais c'est une catastrophe.
Jamais été
remplacé. Chaque frappe cadrée, ses buts.
Subasic n'a jamais été remplacé. Après, même Kerrer, je suis désolé, mais faut arrêter.
Quand ton leader de défense, c'est Kerrer, c'est compliqué.
Ok.
Merci en tout cas, Maxence. Hein. Du coup, donc je vais prendre quand même assez rapidement. Villarreal-Juventus, moi, c'est un match qui
ça
me tire. Hein,
ça m'attire, ça. C'est intéressant.
Même des Dortmund-Atlético-Bilbao, oui, ça peut être des matchs...
C'est niveau Ligue Europa à peu près ce match-là.
Oui, mais
ça...
top Ligue Europa quand même, non ?
T'es sévère, Dortmund, c'était en finale de Ligue des Champions il y a 2 ans.
Oui.
Ligue Europa, t'es sévère.
Dans l'affiche. Ah,
Madrid-Francfort à domicile, Madrid...
Atlético ?
Oui, Atlético de Madrid-Francfort.
Ouais.
Francfort ouais, qui ont calé 6-3.
Moi, c'est Villarreal Juventus là qui est plus intéressant. En plus, t'as Nicolas Pépé en ce moment qui.
Même Liverpool, à Galatasaray, ça va pas être
le
facile.
Choc des anciens coachs marseillais.
Liverpool.
Ouais, exactement.
Liverpool qui
Marcelino contre Igor Tudor.
T'as dit Galatasaray contre qui?
Galatasaray qui vont recevoir Liverpool.
Ah, c'est pas mal ça.
C'est pas mal. Hein.
C'est pas mal. C'est
parce
pas
que
mal,
les Turcs à domicile, c'est bon, c'est fort. Et aussi, The Special One. The Special One qui a dit qu'il était rouge, qu'il est plus bleu. The Special One qui va aller affronter Chelsea avec le Benfica. Qu'est-ce que t'en penses, Alfred?
Après, il retourne chez lui, donc on verra. Parce que pour l'instant, moi, j'ai une chose, son arrivée au Benfica, ça reste à découvrir. Parce que bon, le Benfica, dans l'histoire du football, ça reste un grand club. Maintenant, c'est un nouveau challenge pour lui. Retourner à Stamford Bridge, il sera la bienvenue. On verra ce que ça va donner là, pour l'instant. Parce que je ne peux pas me prononcer sur ce match-là, mais il sera bien accueilli. De toute façon.
Ça, c'est sûr qu'il sera bien accueilli. The Special One. Du coup, on a aussi Atalanta Club Rouge. Attention, hein, Club Rouge qui joue. Atalanta qui revient un peu, mais Club Rouge peuvent créer la surprise à l'Atalanta, je pense.
Je pense.
Quand même.
Surtout qu'un Atalanta qui est en cours de. Bon, on les a vus au parc, c'était vraiment trop court.
On dira à personne d'aller parier, hein, mais non. Club Rouge a une cote à 3,75 quand même.
Non, mais Club Rouge, même plus globalement, Club Rouge, ils sont à suivre. À mon avis, ils sortiront de la phase de groupe. Et en 16e, ça va pas être une. Ou en 8e, mais plutôt en 16e, ça va pas être une équipe facile à jouer, je pense. Ouais. Aller jouer là-bas, si soit t'es un top 5 Europe, et dans ce cas-là, tu vas t'en sortir. Mais si t'es une équipe un peu type Atletico, type. Ça peut être très dur d'aller à Bruges.
On l'a vu l'année dernière, Atletico, en jeu contre Bruges, ils ont pas réussi à gagner.
Ah, bah hein. Voilà, je l'avais pas en tête, mais.
Il me semble qu'ils avaient perdu face au Club Rouge. Du coup, oui. Voilà, bon, je pense que le Real Madrid, ça devrait pas être très difficile. Kerat Almaty.
Ouais, normalement. Oui.
C'est des formalités, ça.
Là, c'est pour les stats.
N'allez pas mettre votre argent sur Kairat Almaty.
Non, il faut juste, à mon avis, éviter les blessures. Parce que là, tu joues au Kazakhstan, donc il va faire froid, ça va être des conditions différentes.
10 heures de vol, c'est énorme.
Bon, après, ils volent pas en écho, t'inquiète.
Oui, mais c'est quand même ça reste fatigant.
Mais moi, c'est plus le côté, tu passes de Madrid, il doit faire 25 degrés. Au fin fond du Kazakhstan, il doit faire 2.
Ça, attention, ça, c'est des matchs qui.
Pour les muscles.
Je dis pas.
Non, non, ils sont nuls. C'est niveau N2.
Je te parle pas du niveau. Attends, mais tu vois, j'ai pas fini. Je parle pas du niveau de l'équipe, je te parle du contexte, l'environnement, etc.
Comme la Bolivie, quand la Bolivie joue à domicile.
Mais tu vois, c'est compliqué d'aller jouer en Bolivie. Va jouer en Bolivie.
C'est compliqué.
Il faut jouer avec un masque en Bolivie.
Il y aura 3 buts d'écart quand même. C'est que...
Je dis pas le contraire. Mais moi, tu sais pas si. Bon, c'est avec des champions.
Tu vois, un Bellingham qui revient de blessure, je le ferai pas jouer sur ce match-là. C'est des matchs bourbés. J'enverrai les Rodrigo, Mastantuono, les jeunes qui jouent pas souvent, etc. Enfin, qui jouent pas souvent, qui jouent un peu moins.
Gonzalo Garcia. Ils vont faire le taf.
C'est des matchs pour stats. Après, je pense que Mbappé va vouloir stater. Donc, il va jouer. Il va mettre son triplé. Et puis, c'est très bien comme ça.
Faut qu'il gonfle.
Je suis d'accord avec Salé. Ça, c'est des matchs. C'est des matchs, ça finit à 0-0, un match dégueu.
Je les ai vus sur leur premier match, c'est pas possible. Je vous le dis, ils jouent pas en Ligue 1.
Non, mais c'est des matchs déjà que les joueurs ils ont pas envie d'aller jouer. Tu fais 10 heures de vol, t'arrives dans le froid, t'as pas envie d'être là.
Je te parle pas de l'équipe, je te parle pas du niveau, je te parle du contexte.
Oui, mais même dans le contexte.
Ça, c'est des contextes. Ça peut être compliqué comme ça peut être facile.
Même si Mbappé il a 50%, il fera la diff contre Kaira.
D'accord, mais je te dis juste que c'est des matchs qui peuvent.
C'est comme quand t'allais jouer le Shakhtar.
Ils vont gagner. C'est pas pareil. C'est une vraie équipe.
Après Shakhtar,
c'est une vraie équipe.
Oui, mais c'est le même climat, le même. T'as pas envie d'être là-bas. En fait,
oui, t'as pas envie.
Je te parle pas. Je te parle
Shakhtar,
pas
de... ça joue encore au ballon. Shakhtar,
c'est des matchs où t'as pas envie d'aller en fait.
Moi, ça peut être des matchs bizarres. En plus, je viens de te prendre un 5-2, donc j'espère que voilà. Parce que tu sais pas, on sait pas. Le football, ça va vite maintenant.
Naples Sporting,
Napoli.
Naples, attention, parce que on sait que Conte il a du mal sur les compétitions européennes à gérer en même temps que le championnat. Ils ont perdu encore hier. Dans un match où ils n'ont pas été bons contre le Milan.
C'était un match ouvert.
Et avec Kevin De Bruyne qui est sorti et qui n'a pas été très content.
Il y a des petits conflits déjà entre eux. Il l'avait sorti déjà contre City suite à un rouge. Enfin voilà. Et je sens la campagne catastrophique de Naples en Ligue des Champions. Je ne sais pas pourquoi. Et le Sporting, c'est intéressant.
Attention, je pense que c'est une équipe qui va vouloir se racheter de son match contre. Non, moi je vois Naples emporter.
Franchement, je vois Naples.
La campagne catastrophique.
Je vois le Di Napoli.
Très bien.
Non.
Merci. En tout cas, Maxence aura prévenu. On va se faire une petite virgule hein, avant de revenir avec la Première Ligue. La Première Ligue, tout simplement, Liverpool qui se sont inclinés face à Crystal Palace au bout du bout. Hein, eux qui ont l'habitude de surprendre au bout du bout, bah, cette fois-ci, c'était pour eux. On y revient dans quelques instants.
Retrouvez Au bout du foot avec El Hadji Makalou. L'émission où on parle de foot comme entre potes. Chaque lundi en direct de 20h30 à 22h sur Mon Paris FM pour des débats passionnés, des analyses sans filtre et des moments de franche rigolade. Ici, le foot se vit et se discute avec authenticité. Rejoignez-nous pour vibrer, discuter et partager autour du ballon rond.
De retour dans les locaux de Mon Paris FM, on va parler de la Première Ligue, Liverpool qui reste en tête hein, avec 15 points, Arsenal deuxième avec 13 points, Liverpool qui se sont fait surprendre à Crystal Palace qui ont perdu 2-1, Arsenal eux qui ont surpris de l'autre côté Newcastle hein, et reviennent à 2 points de Liverpool, hein. Liverpool commence à prendre une longueur d'avance mais attention parce qu'il commence à se faire un peu rattraper et Crystal Palace qui intègre le top 3 avec 12 points, Tottenham avec 11 points, Manchester City sont régalés un peu ce week-end en voyant les contre-performances des équipes. Hein. On a pu voir aussi Chelsea hein, qui menait 1-0 face à Brighton et qui se sont fait surprendre et qui ont perdu 3-1 suite à un carton rouge. Quelles sont vos impressions sur ces matchs-là? Amorim va-t-il rester en place hein? Amorim qui a encore subi une défaite ce week-end, 3-1 face à Brentford. On a pu voir un pénalty loupé de Bruno Fernandes à 2-1. Est-ce que ce n'était pas le tournant du match, finalement, ce match-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Alfred, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ce qui se passe en Première Ligue? Est-ce que tu penses que Ruben Amorim devrait être maintenu à son poste après ce début de saison catastrophique côté mancunien?
Le fait partie maintenant, je crois pas. Il faut laisser un peu avancer du championnat. 2-3 journées pour pouvoir voir, pour pouvoir se décider. Ce serait tôt de le faire partie par rapport aux résultats. Mais après, pour l'instant, moi, je pense qu'il faut observer pour voir.
C'est fini, l'observation. On a observé, on a vu, on a compris. Oui, bon. C'est, après, le problème de Manchester United, de toute façon, c'est, il est plus profond que Amorim.
Voilà.
Ouais. Oui, c'est pas les coachs, mais il faut quand même que le coach parte. À un moment donné, faut qu'il parte. Ça y est, on a vu Amorim.
Mais Amorim, sur le papier, je suis désolé, mais ça, c'est pas une équipe qui va se faire. Tu vas pas finir top 3 avec ça.
Non, mais, oui, mais t'es pas obligé de finir dans les 3 derniers.
T'es pas obligé de jouer le maintien toutes les saisons.
L'année dernière, ils ont fini 17ème.
Oui, mais c'est ce que je te dis.
C'est la suite logique.
C'est pour on ça te demande pas de finir dans les 3 premiers, mais au moins dans les 10, quoi.
T'as un coach qui peut mieux faire, je pense.
Même dans les 10, l'équipe, j'ai du mal avec le United.
Ah, on a vu des équipes maintenant comme Brighton, Brentford. Ouais, c'est des équipes comme ça aujourd'hui qui sont dans le top 10. Qui sont
des nullards quand même.
Non, le club, les joueurs, même l'équipe.
On va voir la compo du United. Elle est nulle. Mbomo au début, je me suis dit. Oh, pourquoi pas Kuna, j'aime
mais
bien.
Mbemo, c'est un bon joueur.
Non, c'est un très bon joueur. Si, qui est dans un mauvais contexte.
Sesko, c'est un bon joueur.
Il a du mal. Mais ils ont du mal.
Bien sûr qu'ils ont du mal. Mais pour moi, le coach, au bout d'un moment, il faut en parler. Ça fait un an qu'il est là. Mais on a les vrais patients.
Au début,
j'aimais
bien. Kuna, tout ça, ça se passait super bien. Mais après, les
premiers matchs. Ça s'est jamais passé super bien.
Mais tu sais, c'est quoi le problème du United?
Les premiers matchs, il y avait les deux premiers matchs, je les avais regardés. Ils se procuraient beaucoup d'occasions. Ça finissait pas.
Mais c'est justement ça le problème du United. Les joueurs arrivent, c'est des bons joueurs. Ils font des bons débuts. Et après ça se casse la gueule. Donc il y a un problème quand même plus qui moi qui, je pense que c'est plus profond qu'à Amorim.
Mais il faut qu'il parte.
Non, c'est plus profond
c'est
que ça. Plus,
mais on en a parlé l'année dernière.
Non, c'est plus profond que ça, mais il faut qu'il parte quand même.
Apparemment, même les machines elles datent de CR7 en 2008.
Mais rien n'a changé. À l'époque de Solskjaer, etc., t'avais des résultats qui étaient difficiles, c'était compliqué, c'était la crise.
Oui, mais t'avais
tu grattais une cup, tu finissais dans les 4-5, t'allais en Europa League.
Comme
Eric
Ten Hag. Eric
Ten Hag. Donc t'avais pas des saisons de fou, mais tu gagnais quand même des titres, t'étais un petit peu digne, tu t'en sortais un peu par le haut, t'avais l'Europa League où tu gagnais des matchs. Là, t'es dans. Celle-là, c'est une catastrophe. Les 16e, 17e, c'est pas possible.
Ça a commencé la saison dernière, ça a interpellé personne. En Ligue Europa, je ne savais même pas comment ils ont réussi à aller jusqu'en finale.
En fait, la question, c'est qu'il faut changer quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils s'installent.
Mais le coach
eux.
Aussi.
Non, mais eux,
même le coach va changer. Moi, c'est plus une histoire de coach. C'est
non,
le
mais
club.
C'est plus profond.
C'est
structurel.
Problème,
c'est structurel. Le fait qu'ils aient été rachetés, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai l'impression qu'il est tout le temps dépité, celui de Nice. J'ai oublié son nom.
Radcliffe.
En tribune, il est toujours dépité. Mais il fait quelque chose. T'as de l'argent. C'est ton club.
Bah,
baker,
il donne l'argent, lui.
Oui, mais non.
Il l'envoie. Ils envoient 200 millions cet été.
Oui, mais l'argent, c'est pas que sur les joueurs. Quand il dit qu'il y a des machines qui datent de l'avant-guerre, il y a des choses à changer dans ce club. Non, mais structurellement, Je pense qu'il y a un problème beaucoup plus profond que juste changer des coachs ou
mettre
des joueurs.
Est-ce que le centre d'entraînement est aux normes? Est-ce que le centre d'entraînement, il y a tout.
Non, mais moi, je dis pas qu'en changeant un coach, tu vas redevenir une top équipe. Mais je dis juste que en gardant ce coach-là, t'es mort. Parce que t'es dans la nasse, c'est terminé.
Après, lui,
il a perdu son groupe, il veut pas changer son système, il a pas les joueurs qui collent à son système, et il veut pas le changer. Il veut pas évoluer de son 3-5 avec qui il a gagné au Sporting, etc. Donc à partir du moment où t'es un mec qui veut pas évoluer, qui veut pas s'adapter à ses joueurs et avec qui ça marche pas, tu vois que les cadres ils font la gueule. Après, c'est compliqué, c'est mort pour moi.
J'ai même pas compris pourquoi il a quitté le Sporting en plein milieu de la saison pour aller à Rojan United. Il leur dit finir sa saison.
C'est un mec qui a pas de valeur, c'est tout.
C'est un mec, il leur dit finir sa saison tranquille.
C'est dur quand même.
Non, mais c'est la vérité. Ouais, tu tiens ton club avec qui.
Mais là, t'attaques l'homme. C'est un homme qui a pas de valeur.
J'attaque l'homme.
Ça reste que du foot, des contrats et de l'argent. C'est pas une question de valeur. Je pense qu'il y a ce truc de c'est une opportunité que.
Moi, je pense qu'il est venu en se disant je serai le sauveur du
United. Oui, je vais réussir.
Je vais réussir. Je suis avec Sporting.
En plus, tous les autres, ils ont échoué derrière. Regarde si moi j'y arrive.
Mais globalement, les coachs portugais ont le boulard. Et lui, il en fait partie également.
Il a le boulard.
Et il a le boulard. Et
le challenge, il est excitant. En vrai, le challenge, il est excitant. Même toi, demain, on t'appelle pour aller entraîner United.
Attends, mais quand t'as le boulard, faut l'assumer dans les deux sens.
On a entraîné United dans ces conditions-là. Non, mais tout ce qui s'est passé.
Quand t'as le boulard, oui.
Quand t'as le boulard.
Quand tu te penses au-dessus de.
Même quand t'as le boulard, tu dois avoir un minimum de.
Alors qu'il pourrait continuer à marquer l'histoire avec le Sporting. Et cet été, il aurait une opportunité à l'Inter. Dans un club comme ça, il aurait eu une super opportunité. Et au lieu de ça, il allait se mettre dans le bourbier. C'est pas grave, tant pis pour lui.
Mais pas les valeurs quand même. Attends qu'on pas. Ah, du foot. Attends qu'on pas les humains sur leur personne. Ça reste du foot. Mais c'est dommage pour lui.
En tout cas, c'est très difficile pour Manchester United. Manchester City qui se sont relancés 5 buts à 1. Hein. Bon, c'est une formalité, je pense, face à Burnley. On attend de les voir face les gros hein, quand même, parce que ils ont fait un très mauvais début de saison quand même, hein, malgré les contre-performances de Arsenal et de Liverpool en début de saison. Ils n'ont pas su être dans le top 5 quand même.
Et ce qui est dommage, c'est leur match contre Arsenal en vrai, où finalement tu fais un plutôt bon match qui est différent du style Guardiola, mais où tu te fais égaliser à la toute fin de match. Mais ce qui était prévisible aussi, tu te sentais quand même qu'Arsenal
poussait.
Je pense que tu rajoutes 10 minutes dans ce match, l'Arsenal même remporte le match. Donc oui, c'est à voir. C'est une équipe aussi qui est en transition. Eux, pour le coup, ils sont en transition de jeu. Enfin, Guardiola a compris qu'il fallait faire autre chose que ce qui avait fait son succès jusque-là. Après, est-ce que ça va fonctionner?
Merci, Abou. Arsenal qui sont imposés 2-1.
Ça a été très 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 compliqué pour Arsenal.
Très difficile, ouais.
Avec notamment des polémiques arbitrales, encore une fois, sur le pénalty de Gyökeres et aussi sur la faute de main de Gabriel en fin de match. Mais ils s'en sortent encore une fois sur un coup de pied arrêté. Sixième but sur corner, sur 12 buts marqués. Pour moi, ça aura une limite quand même. C'est que c'est très bien, ils s'en sortent.
L'année dernière, ils ont joué comme ça. Hein.
Ouais, ils n'ont pas gagné à la fin. Mais, et je pense que c'est le truc qui va leur manquer. Ils vont faire une super saison, finir dans le top 3, top 2. Mais il va leur manquer un peu plus de génie, d'imagination.
On parle d'United, mais au bout d'un moment, Arteta, on va pas se poser la question. Oh bah
c'est quand même pas pareil, on va pas les mettre sur
le même plan.
On les met pas sur le même contexte. Mais c'est vrai que ça fait 7 ans qu'il est là et qu'il n'a rien gagné.
C'est vrai.
Attends, je te parle pas du même contexte, mais je te parle dans la logique.
7 ans, et avec l'argent dépensé aussi.
L'argent dépensé.
Après, en Angleterre, de toute façon, tout le monde dépense. Chelsea dépense, City dépense, Arsenal dépense, Liverpool dépense.
Ah, mais tu vois, Chelsea, sur les 5 dernières années, Chelsea, ils ont une Ligue des Champions.
Ouais, bien sûr.
Il y a la Coupe du Monde des clubs, ils arrivent à se débrouiller un peu. Mais Arsenal, même une FA Cup.
J'ai pas la première ligue.
J'ai l'impression que Arsenal. Je sais pas, il a la bonne gueule, on parle jamais d'Arteta.
C'est pour ça.
Ça joue bien. Parce qu'il a un profil, ça gagne pas, c'est pas grave.
C'est le petit à Pep Guardiola, il a le profil Pep Guardiola, on aime bien le voir jouer au football.
Mais ça, c'est avant, parce que c'est plus si beau à voir que ça.
Mais même lui, à titre personnel, à un moment donné, part quoi, essaye d'aller gagner quelque chose.
Mais
j'ai l'impression que tout le monde est confort dans ce truc-là.
Mais quand je parle d'Arteta, je parle pas de.
Mais ça forcément peut être la bonne saison.
Je dis pas forcément gagner la première. Enfin, oui, gagner la première ligue. Gagner la première ligue, mais même taper une petite, comme t'as dit, FA Cup ou tu vois, un petit truc.
Non, je suis d'accord.
Au moins pour montrer que t'es sur le chemin de pouvoir aller chercher la première ligue.
Mais les dernières en Ligue des Champions, t'es pas ridicule. En demi, et en première ligue, tu finis pas si loin contre un Liverpool qui fait une saison stratosphérique.
Ça fait un petit mois qu'ils sont pas
si loin.
Cette
année, je pense que Liverpool va pas être si fort cette année. Cette année, City est un peu moins bien. C'est l'année d'Arsenal, c'est l'année où jamais.
Mais si l'année,
t'as tout le monde qui est pas à son top et toi, t'es à ton max normalement.
À Liverpool, même s'ils sont pas au top, comme tu dis, ça gagne des matchs. Hein.
Bien sûr, mais là, ils perdent ce week-end.
Et même les matchs difficiles, ils perdent ce week-end. Le premier match, c'était prévisible qu'ils allaient perdre à un moment ou à un autre.
parce qu'en plus leur prestation n'était pas si dingue depuis le début.
Oui. Après moi je pense que le fait que Gakpo ne soit pas là titulaire, que Etiquité ne soit pas là aussi à cause du rouge bêtement pris aussi, ça joue hein, parce qu'Isaac n'est toujours pas en forme, hein. On le voit et c'est pour ça que justement Etiquité là.
J'ai du mal à imaginer un champion d'Angleterre avec Gyökeres quand même. J'espère pas. Ce sera un mauvais message envoyé au football. Ce joueur est quand même très limité. Ouais,
aujourd'hui, il tire sur tout le monde.
Gyökeres, le rapport qualité-prix, pour moi, il est compliqué. Le mec, il joue avec des boîtes à chaussures. Il est grand, il est puissant, mais il a des.
Oh, calme, il a mis 90 buts dans son championnat là-bas.
Force à lui, mais.
Non, mais. Oui, moi aussi, il y a ce truc. Non, mais vraiment, on est tous des hypocrites. Ouais, mais il faut respecter les petits championnats. S'il a mis 50 buts là-bas, c'est qu'il a quand même des qualités. Arrêtez, les
et
gars.
Quand les grands clubs prenaient du temps à aller le chercher, tout le monde dit ouais, mais c'est pas normal.
Bah oui, le gars, il met 50 buts contre Rio Ave.
Non, après, faut attendre un petit peu. Bon, c'est le début de saison.
Il a 27 ans. Hein. Donc, on va pas attendre longtemps. Enfin, il a 28 ans.
Il était déjà en Angleterre. Enfin, il était
en D2 anglaise, etc. Il a jamais été exceptionnel. Pour moi, c'est un joueur qui est surcoté à mort. Il a fait une saison de fou, mais
il fait une saison de malade.
Quand tu vois les autres neuf des équipes, des top équipes anglaises, que ce soit Isaac, bon, qui est pas en forme, mais quand même un bon joueur foncièrement.
Attendons sur le bilan à la trêve.
Là, c'est. Ouais, bon, on fera le bilan.
Je pense.
Pour moi, dans les gros matchs, il va te coûter. Tu peux pas aller dans les gros matchs avec un mec.
Il suffit pour l'attaquant d'avoir 2-3 mois, il enchaîne les buts, ça se libère.
C'est qui disait c'est comme le quoi
c'est comme le lait ketchup.
Le ketchup. C'est...
Dès que ça sort, tout sort.
Tu vois.
Après, c'est pas vrai pour tout le monde, ça. Hein. Je connais 2-3 attaquants.
c'est de la mayo, c'est pas du ketchup.
Ouais, c'est ça.
Dans ce cas-là, on dit c'est de la mayo, c'est pas du ketchup.
Je voulais vous poser une question. Arsenal, pour vous, c'est un grand club?
Bah oui.
Dans l'histoire, oui.
Dans l'histoire, Arsenal,
même actuellement, c'est
un grand club.
Pas pour toi, Alfred.
Non, pas du tout.
Comment?
Ah ouais, pas
du tout. Pas du tout.
Mais il y a combien de grands clubs?
Attendez.
Il a baissé le micro.
À titre personnel, je vous dis, Arsenal, ça joue de la régularité. Il y a une période, au temps de Ian Wright, David Seaman, oui. Après, quand Arsène Wenger arrivait à Arsenal, il y a eu un peu de changement. C'est vrai que dans le championnat, ils arrivent à faire
des... Ils ont fait les invincibles.
Ils arrivent à réaliser des choses. Mais alors pour moi, Arsenal, c'est un club moyen.
Je ne dirais pas moyen, mais je vois ce que tu veux dire.
Parce que, pourquoi je dis ça, il ne faut pas voir le championnat anglais, il n'y a pas de petit club. C'est-à-dire que c'est de la régularité. Ça court beaucoup, il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements, mais Arsenal ne peut pas être un grand club.
Ah, petites équipes, tu veux dire?
Oui.
Moi, je comprends.
Je vois
le truc aussi de Arsenal, mais c'est vrai que c'est comme ce que tu disais tout à l'heure. Arteta, on ne le remet pas en question alors que ça ne gagne plus. En fait, on a conforté Arsenal dans un truc de.
Voilà.
En fait,
alors que tu as un grand club, au bout de 2 ans, 3 ans, tu ne gagnes pas autant, et un truc, ça gère.
Tu vois, Arsenal, c'est pas grave. Ouais, c'est là.
Regarde Manchester United, même malgré tout ça.
Arsenal, c'est le Monaco. C'est le Monaco d'Angleterre, Arsenal.
Un peu, ouais. Ouais.
Parce que avec une meilleure histoire. Ça va, tu vois.
La question, c'est la deuxième fois que je la pose ici. L'autre, il était là l'année dernière. Moi, je lui dis Arsenal, c'est du régulier, mais c'est pas un grand club. Parce que face aux grandes compétitions.
J'irai pas en plus un petit club ou un moyen club.
Non, c'est pas, je
suis d'accord, mais je vois très bien ce que
c'est. C'est zéro Ligue des Champions, Arsenal.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Oui.
Le PSG, il y a 6 mois, c'était zéro Ligue des Champions, les gars.
Bien sûr, mais dans son championnat, ça gagne tout. Arsenal, ça gagne pas tout.
C'est pas le même championnat.
C'est pas le même championnat, pas de souci. Mais dans ce sens-là, tu peux dire que c'est un grand, quoi qu'il arrive.
Ouais, mais dans ce
et c'est des coupes,
que...
c'est des coupes UEFA avant qu'il y ait les Ligues des Champions gagnées aussi par le Paris Saint-Germain.
Des Crystal Palace qui prennent des coupes.
Benfica est un plus grand club qu'Arsenal.
C'est vrai qu'on est indulgent avec Arsenal.
Comment?
Benfica est un plus grand club qu'Arsenal.
Vous voulez en venir?
Oui, dans l'histoire, Benfica est un plus grand club qu'Arsenal. Bien évidemment.
Ouais, mais Arsenal, je les vois pas en petit club.
Même Ajax Amsterdam est un plus grand club qu'Arsenal. Mais tu vois, c'est des clubs. Même le PSV, j'ai envie de te dire, tu vois. Parce qu'ils ont des titres, ils ont un palmarès, ils ont une histoire. Ils ont un titre, ils ont un palmarès, ils ont une histoire.
Je donne le crédit d'un club moyen. D'un club moyen, régulier dans le championnat.
C'est après, ça dépend d'où
tu as
son
échelle.
C'est
un bon club.
C'est un bon club.
Il a posé une vraie question quand même.
C'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
Si tu te poses
pas là, ça a pris une coupe et tout, alors qu'il ne gagne pas depuis.
Non, mais je te rejoins.
Finalement, elle était pas si délirante que ça.
Tu visites l'Emirates Stadium, c'est quel trophée que tu vas voir, la première ligue des invincibles, c'est ce que tu vas voir.
Je pense qu'il y a un truc qui les colle, c'est Arsène Wenger. J'ai l'impression qu'il est jamais parti du club. Pour moi, il est encore là. Je sais pas pourquoi. Il y a son esprit.
Tu vas visiter l'Emirates, il y a du Arsène partout.
Non, mais il y a son esprit qui hante Arsenal.
Là, il a porté. Il a quand même. Tu vois, il a.
C'est lui qui a donné l'identité. En fait, Arsenal, il y a 30 ans, c'était une équipe de catcheurs. C'était un club de. C'était un
le
club
football,
de catcheurs, de losers. Et lui, il a amené le côté un peu bon joueur.
Et c'est dommage
bon
qu'il remporte pas cette finale.
Face au Barça.
Ouais,
celle-là, elle change tout.
C'est et après, ce qui est surprenant, c'est que Sol Campbell marque Et vers la fin, ils perdent, ça m'a étonné.
Bah, ils ont pris rouge, Lehmann qui prend rouge.
Mais c'est vrai que ouais, c'est peut-être pas un grand club en fait.
C'est Van Persie aussi qui avait pris rouge.
Ah, ça c'était en quart, je crois.
C'était en quart, ou en demi, en demi, je crois. Oui, oui, oui. Mais il y avait cette demi aussi. Cette année-là, c'était bon.
En fait, il fallait qu'ils prennent en demi. C'est en 2005 ou 2006, là. 5 ou 6 contre le Barça, là.
Celle-là.
Franchement, il y avait Henri, il y avait tout le monde. Celle-là, en fait, ils devaient la prendre. Mais c'était compliqué en face.
Avec le rouge aussi.
Le rouge de Lehmann, là.
Le rouge de Lehmann.
Tu la finale, celui-là. Pierre, il sort à la 8ème. Il est comme un.
De toute façon, Lehmann, il n'a jamais été stable dans sa tête, vraiment. Il a toujours été fou dans sa carrière, ce mec-là.
Mais ça a été compliqué. On va se faire une petite virgule avant de revenir avec le dernier sujet de ce soir. Ousmane Ballon d'Or, bien évidemment, et des trophées aussi attribués. Maxence, t'as la liste des trophées attribués.
Bien sûr.
Voilà, comme ça, on y revient juste après. On y arrive.
Et Ousmane Ballon d'Or.
De retour dans les locaux de mon Paris FM pour le dernier sujet, hein, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or 2025, hein, mérité, en tout cas on a pu voir les votes, 1318 points pour Ousmane Dembélé et 1018 points il me semble pour Lamine Yamal, deuxième, l'écart est quand même assez conséquent. Ousmane Dembélé, à qui on a posé la question, à combien de pourcents estimé pour lui qu'il allait remporter le Ballon d'Or ? Il a dit tout simplement 95%. Voilà, 95% pour lui, c'était ça. Ousmane Dembélé qui a tout simplement tout gagné cette saison-là, à part la Coupe du Monde des clubs, mais qui a fait la finale aussi et une belle campagne. Tout simplement maintenant, quelles sont vos impressions pour les trophées attribués ? Maxence va nous dire aussi les trophées qui ont été attribués ce soir, en tout cas le soir de la cérémonie du Ballon d'Or. On rappelle que les joueurs du Paris Saint-Germain ont joué face à Marseille ce soir-là et ils n'ont pas tous pu être présents, mais le président Nasser Al Khelaifi était aux côtés d'Ousmane Dembélé avec Désiré Doué et quelques petits amis aussi.
Alors Ballon d'Or du coup Ousmane Dembélé, et chez les femmes c'est Aitana Bonmati du Barça,
totalement mérité, elle a fait une excellente saison.
Bizarrement, elle perd les deux finales importantes, elle perd l'Euro et elle perd la Ligue des Champions. Mais en vrai, ça se voit que c'est une joueuse différente. Aitana Bonmati, elle est bien meilleure que ses concurrentes. Trophée Copa du meilleur jeune, c'est Lamine Yamal du Barça et Vicky Lopez du Barça. Donc, je ne la connais pas. Trophée Cruyff, meilleur entraîneur, Luis Enrique. Et chez les femmes, Sarina Wiegman, la sélectionneur de l'Angleterre,
qui est championne d'Europe.
Trophée Yashin, meilleur gardien, Donnarumma, et Anna Hampton de Chelsea, qui gagne l'Euro avec l'Angleterre. Et le trophée de meilleur buteur, trophée Gerd Müller, c'est Victor Gyökeres et Eva Pajor du Barça. Le club de l'année, PSG chez les hommes, Arsenal chez les femmes. Arsenal qui gagne la Ligue des Champions aussi, donc voilà. Et le prix Socrates, c'est la fondation de Luis Enrique pour sa fille, la fondation Shana.
Shana, c'est ça. Est-ce que vous êtes en accord avec les trophées distribués lors de cette cérémonie des Ballons d'Or, tout d'abord par le trophée du Ballon d'Or déjà, est-ce que pour toi c'était Ousmane Dembélé, c'était mérité, il n'y a rien à redire, Alfred ?
Pour moi personnellement il le mérite, de façon honnête, parce que Ousmane, avant même le Ballon d'Or, j'avais déjà dit que c'est quelqu'un, s'il arrivait à se faire confiance, il pouvait être un grand ailier. Et il est, depuis Rennes jusqu'à Dortmund. Au Barça, il a brillé. Il y a eu un petit léger de baisse, mais pour moi, jusqu'à aujourd'hui, il le mérite parfaitement. Il a énormément travaillé. Et encore, si lui-même, il est conscient de ce qu'il est aujourd'hui, il pourra monter en puissance vis-à-vis des autres, hein, parce que la concurrence, elle est féroce. Il y a des attaquants comme Mbappé qui sont là. Mais Ousmane Dembélé, pour moi, aujourd'hui, il a pris de la hauteur. Il faut le reconnaître. Voilà. C'est à lui maintenant de s'imposer. Voilà.
Qui se considère maintenant comme un neuf. Hein.
Voilà.
C'est officiellement un numéro 9. Donc, ah oui, parce que même dans
il
donne un très long entretien à l'équipe où il explique: j'ai toujours dit à mes anciens coachs, mettez-moi en 9, vous verrez ce que je vais faire à ce poste-là. Et celui qui m'a fait confiance, du coup, c'est et il ne dit pas dans l'axe, hein, il dit en 9, mettez-moi en 9 et vous verrez ce que je vais faire. Donc pas en 10, ou vraiment en 9. Et donc il se considère comme un 9 et ça devient par défaut le concurrent principal de Kylian Mbappé en équipe de France à ce poste-là.
J'ai toujours préféré
On se souvient
Mbappé.
Du coup de pression qu'il a mis à Deschamps au trophée UNFP. Ouais. En disant, on va demander au coach maintenant qu'il me mette en numéro 9. c'était passé moyennement vu la tête de Deschamps. Et je pense que ça va être problématique pour cet été. Mais bon,
non, Deschamps ne pourra pas enlever Mbappé. Tu vois, il lui a fait la petite caresse dans l'épaule pour lui dire « Mon cher, même si tu es le futur Ballon d'Or, j'ai Kylian Mbappé qui a les clés de l'équipe de France et ça va être compliqué.
Oui, » oui, mais je comprends bien ce que tu as dit. L'idée de Kylian Mbappé, mais ça, à un certain moment donné, Kylian Mbappé, il est passé en tant qu'ailier aujourd'hui, il passe en tant qu'attaquant de pointe. Mais à un certain moment donné, pour avoir le profit d'un grand joueur, il faut revenir un peu en 10. Et la période où Karim Benzema est arrivé face à Cristiano Ronaldo, quand Cristiano Ronaldo est parti, Benzema, il a eu cette expérience de venir chercher le ballon et de le distribuer.
Ouais, aujourd'hui, Mbappé,
il ne sait pas faire ça.
Mbappé, il ne sait pas faire ça.
Donc, c'est ça qu'il doit travailler.
Non, faut qu'il...
Même s'il travaille, il ne pourra pas
le faire.
C'est R7, il n'a jamais fait ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce qu'il sait faire de mieux, et c'est très bien comme ça, c'est d'être devant et de planter.
Ou de faire des passes décisives aussi.
Pour faire ce genre de jeu,
mais tout le temps, on ne va pas lui donner le ballon.
Ouais, mais pour faire ce jeu-là, il faut être un minimum technique. Et je suis désolé, je l'ai toujours dit, Mbappé n'est pas technique.
Mais ça s'apprend.
C'est trop tard.
Quel âge d'apprendre ça?
Il a 27 ans.
Et puis il y a des grands neufs qui n'ont jamais été des... C'est Benzema qui est un peu un ovni là-dedans.
Dans ce style, dans ce profil-là, Benzema, ça pouvait faire.
Ou Harry Kane, bien sûr. Mais je veux dire...
Pour vous, s'il décroche, tu ne pourras pas
jamais
le faire.
Ronaldo, R9, il a fait sa carrière sans décrocher en numéro 10. Et pourtant, c'est un 9 extraordinaire.
Savoir décrocher, il faut être un minimum bon techniquement et savoir bien se déplacer. C'est un mec d'espace qui part dans la profondeur, pas quelqu'un qui va venir chercher les ballons et vouloir construire. Il ne sait pas faire ça. Il a essayé de le faire au PSG. C'est pas pour lui. Il n'a pas le profil.
Non, pour revenir au Ballon d'Or, j'aimerais interroger Salé sur Vicky Lopez, du coup.
Non mais c'est mérité, Vicky Lopez a fait une saison avec elle fait une saison avec le Barça. Je sais pas si t'as suivi ou pas de
Je veux dire la vérité, franchement je suis pas le football féminin.
Non mais est-ce qu'on peut parler de ça en vrai, de mettre la cérémonie des hommes et des femmes le même jour? Moi je trouve que c'est
ça met pas en valeur les femmes.
Si tu le mets en dehors, tu regarderas jamais.
Ouais, en vrai.
Là ça leur permet d'être au même statut.
Tu sais qu'elle a été élue.
Non, si tu me l'as dit.
Ouais, mais c'est
son troisième ballon d'or. Elle est à côté d'Mbappé. Tu vois les photos et tu te dis c'est qui elle? Parce que tu vois qu'elle a un ballon d'or et qu'elle est à côté d'Mbappé.
Dembélé. Mais du coup, si elle faisait dans son coin, je saurais même pas qui c'est, ce qu'elle a gagné ou pas.
C'est son troisième ballon d'or.
C'est diffusé où les matchs du Barça féminin?
C'est sur l'équipe, la Ligue des Champions féminine, c'est sur l'équipe cette année.
D'accord.
La Ligue des Champions,
moi j'ai suivi l'Euro.
L'Euro, j'ai suivi.
Ouais, l'Euro,
j'ai suivi la finale.
Non, mais ça, c'est des matchs que tu suis parce que c'est sur M6 ou TF1.
Oui, en vrai, de vrai.
J'ai une question par rapport au trophée, là, en les relisant. Trophée du meilleur club. Ça, quel intérêt, si ce n'est de donner l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions? Parce que là, c'est ça, chez les hommes, chez les femmes.
Meilleur club, j'ai pas compris. Je vois pas l'intérêt.
En fait, c'est l'équipe à la gagner la Ligue des Champions. Enfin, tous les ans, ça sera ça le meilleur club, globalement. C'est l'équipe qui gagne. Donc, voilà, je sais pas.
Sauf sinon, qui gagne vraiment tout. Et qui arrive en finale, qui perd la finale, l'autre elle gagne que la Ligue des Champions. C'est peut-être possible. Ça aussi, tu vois.
Genre, mais si t'as le Barça qui gagne tout l'année dernière et qui perd en finale de Ligue des Champions,
tu peux le donner.
Un Chelsea qui fait une mauvaise saison et qui gagne la Ligue des Champions. Ouais,
comme là, est-ce que vous comprenez Cole Palmer? Cole Palmer,
j'ai rien compris. Genre là, lui, c'est
Après, les classements, il y a toujours des dingueries.
Non, mais là, ça, c'est vraiment une énigme. Qu'est-ce qu'il fout dans top 10?
Fabien Ruiz, 24e. Nuno Mendes.
Bah, c'est les gens qui votent. Hein. J'ai vu une journaliste congolaise qui a mis Désiré Doué dans son top 3.
Hein
qui... Oui.
Le journaliste écossais, il a mis McTominay numéro 1.
Ouais, mais ça, c'est à la limite, ça encore.
Ça, c'est du nationalisme.
Ouais, même celui qui met Guirassy dans 3e, le journaliste guinéen qui met Guirassy 3e. Encore ça va, il l'a mis 3e.
Pour moi, il n'a pas existé.
Attends,
il
y a un journaliste
congolais. Il y a une journaliste congolaise.
Attendez, faut que je vous retrouve le classement de la journaliste congolaise. Et c'est pour ça que moi, je dis.
Elle a mis qui? Mbokani en premier.
Non, elle peut faire que parmi les nommés. Donc ça limite les dingueries. Et je trouve qu'il y a quand même moins de débats les années où il n'y a qu'une compétition. Enfin, en gros, que la Ligue des Champions, il n'y a pas de compétition internationale. L'année prochaine, le Ballon d'Or de l'an prochain, il peut être très très disputé parce que tu en auras un qui aura gagné la Ligue des Champions. Imaginons un Yamal qui prend la Ligue des Champions, Mbappé ou Dembélé qui prennent la Coupe du Monde. Tu vas avoir le débat de qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui pèse le plus. Et là, c'est là qu'il y a.
Et ces dernières temps, de toute façon, ça a été la Coupe du Monde. Hein. Clair, net, précis.
Non, pas forcément.
Si, ça a été la Coupe du Monde. 2018, Messi il prend.
Ouais, mais 2018, c'est Modric qui prend.
Oui, mais parce qu'il est en finale aussi de Coupe du
Monde.
Ouais,
mais les Français, ils l'apprennent pas.
Oui, il apprend pas. Mais il gagne la Ligue des Champions, il gagne tout. Et il va en 2018, il va en finale.
T'es obligé de lui donner.
Donc, c'est pour ça aussi. C'est parce qu'il va en finale. Et dans les autres, en équipe de France, il n'y a personne qui se démarque.
Bah oui.
Qui c'est est vrai. Au-dessus mais du lot. Vraiment. Ouais, même si t'as Mbappé, Griezmann aussi.
T'as un Varane qui prend tout aussi cette année.
Oui, t'as un Varane qui prend tout, mais qui ne se démarque pas, qui n'est pas au-dessus.
C'est vrai.
C'est pour ça que. Et le Real pousse après pour Modric, même si c'est Cristiano qui doit l'avoir en 2018. C'est Cristiano qui doit l'avoir, mais on pousse pour Modric parce qu'il part, Cristiano. Oui, il prend aussi, la Ligue des Champions, oui. Il fait une superbe saison, il fait
après
tout.
Modric fait une saison de voilà. Fou aussi. Hein.
Oui, et, mais même avec son équipe en Coupe du Monde, il porte quand même en phase de poule. Oui. Cristiano Ronaldo, il porte quand même son équipe en phase de poule et pour se qualifier
mais
pour les trucs.
Mais pour moi, après, la problématique voilà. Que tu as sur une année comme ça, c'est que Coupe du Monde, tu peux pas récompenser Ballon d'Or un mec qui va pas minimum en demi-finale de Coupe du Monde. C'est pas possible. C'est que cette année, je te dis pareil, hein, si c'est
même s'il gagne tout derrière.
Bah, c'est comme un 8ème de finale.
Donc pour toi, quelqu'un qui gagne la Coupe du Monde et qui ne gagne rien avec son club.
Non. Ah non, mais pour moi, tu vas piocher dans celui qui a gagné quelque chose. Tu vois, ça va être ouais. Un bon équilibre, le juste ouais, équilibre. Le mais juste c'est comme cette année, un Salah Ballon d'Or, j'aurais pas pu comprendre. Non, malgré les stats, il a pris la PL, etc.
Je suis pas d'accord.
Mais il sort en 8ème de
finale,
c'est pas possible.
Celui qui a gagné la Coupe du Monde, plutôt celui qui a, on va dire, qui a porté son équipe.
Qui a brillé.
Qui a brillé. Parce que gagner la Coupe du Monde. Et t'en as plusieurs joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde.
Et puis il y a le côté équilibre entre ce que tu fais en Ligue des Champions, ce que tu fais en Coupe du Monde
mais
aussi.
Mais pour moi, ça se mérite. Si fais... Comment Ousmane Dembélé, on en parlait, là. Il y avait un petit débat. Ouais, mais Yamal. Ousmane Dembélé, il gagne tout. Qu'est-ce que tu... il fait gagner la première Ligue des Champions de l'histoire au Paris Saint-Germain. Le mec, il a porté le Paris Saint-Germain. Je l'avais sur les gros matchs, il a été présent.
Mais tu vois, Dembélé, si ça avait été une année paire, il n'aurait pas eu son Ballon d'Or. Parce que Dembélé, en équipe de France, il ne sera jamais récompensé en tant que là, leader d'équipe.
Il
n'a
jamais été, il a jamais été bon, il a jamais été bon en équipe de France.
Aussi.
Il fait beaucoup de choses. Il n'a jamais été bon en équipe de France.
Et même, ce sera Mbappé qui prendra les pénaux, ce sera Mbappé qui sera capitaine, ce sera Mbappé qui sera sur les photos, ce sera Mbappé.
Ouais, mais dans tous les cas, Mbappé, en Coupe du Monde, il est toujours performant. Oui. Le mec donc, là, la prochaine Coupe du Monde, je pense qu'il dépasse le
bien sûr.
C'est Klose.
Mais du coup, si un Français qui doit. Si la France gagne la Coupe du Monde et doit être récompensé, ce sera par le biais de Mbappé.
Parce que Mbappé, tu sais très bien qu'il va il fera partie des gars qu'on fait briller l'équipe de France.
Mais pour revenir sur le classement, par exemple, tu comprenais pas pourquoi Cole Palmer il a été classé dans le top 10. Bah, le journaliste albanais, mais Cole Palmer, deuxième de son classement. Mais pour lui, c'est le deuxième meilleur joueur du monde. La journaliste congolaise, elle met Doué troisième. T'as des journalistes qui mettent Michael Olis, qui les mettent dans les 10 premiers.
Michael Olis dans le top 10.
Dans leur top 10. T'as le journaliste autrichien qui le met 8e et le Camerounais qui le met 10e. Donc finalement, quand tu regardes...
Ouais, mais en fait, on laisse voter des gens qui... Désolé, mais qui... Je sais pas si...
En fait, il n'y a pas de bon système là-dessus. C'est-à-dire que là, tu fais les journalistes de chaque pays. Donc voilà.
Mais est-ce que ce genre...
Avant, c'était les capitaines et les sélectionneurs.
Mais c'est mieux ça, les capitaines.
Non, parce qu'eux, ils choisissaient...
C'est vrai que c'est avantagé leur
pote. C'était leur pote.
Oui, mais ça reviendra là même avec les journalistes. Ils vont avantager peut-être un mec de chez eux.
Parce que là, il y en a qu'un. Tu vois, le trophée Copa, c'est les anciens ballons d'or qui votent.
C'est vrai.
Et t'as Ruud Gullit qui a mis qui dans
son... Yamal hors top 3.
Ouais, qui a mis Yamal hors top 3 et qui a mis Koubarsi et Huijsen en deuxième et troisième. Et
son donc ça, c'est compliqué, un, c'est, alors que c'est des mecs qui ont été... Si
mais sinon, on interdit au capitaine de voter dans les
équipes. Après, ça dépend qui est-ce qu'il met derrière, mais pour moi, il met Yamal hors top 3, c'est pas...
Du trophée Copa.
Si tu mets Koubarsi
et Huijsen... Ah, du trophée des jeunes.
Ah, des jeunes, ok.
Trophée Copa, c'est compliqué quand même.
Ruud Gullit, il a un problème avec Yamal.
Huijsen, il a fait une saison à Bournemouth, c'est cool. Mais bon, il y en a un autre qui était en demi Ligue des Champions, ça va.
Ah, mais là, c'est les deux premiers, c'est Désiré.
Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne méthode en fait pour voter. Tu vas mettre les anciens joueurs, ils vont faire selon leur
pote. Oui.
Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas leur interdire de.
Ouais, c'est chaud ça. Aussi, parce qu'imagine les forces ouais, pour qui tu dois voter.
Il faudrait le vote du peuple, mais le vote du peuple, ça serait. Ce serait les Turcs qui gagneraient parce qu'ils spammeraient le truc pour mettre des likes.
Un joueur de Ligue 2 en top
1. Youssouf, là, Yazici et Ballon d'Or. On est cuit.
Ouais, tu n'aurais
pas de bonne solution pour moi.
Il faudrait supprimer le Ballon d'Or, c'est tout.
Je suis d'accord avec toi.
Le football, c'est un sport collectif. Et c'est pour ça que même Lucien Riquet disait que je sois nominé ou pas, de toute façon, moi, je me rendrai pas à la cérémonie.
Et ça, je l'ai trouvé très bien d'ailleurs. Parce que autant les prises de position du Real, typiquement l'année dernière, on se déplace pas et tout. Si l'année prochaine, c'est Mbappé ou Vinicius qui l'a, ils se déplaceront.
Mais bien sûr.
Mais Enrique, il aime pas ce genre de truc. Il a dit, moi, je le ferai pas quoi qu'il arrive.
Et là, il
gagne.
Trophées, hein.
Il gagne et il se déplace pas. Après, et là, moi, je trouve que c'est un mec qui va au bout de ses convictions. Il a dit qu'il aimait pas ce truc-là.
De toute façon, il pouvait pas se déplacer. Il y avait un match à Marseille.
Ouais, même s'il n'y avait pas match, il se serait pas déplacé.
Ouais, mais le ballon d'or, avant, c'était intéressant. Mais je trouve que ces dernières années,
ça a jamais été très intéressant.
Non, mais quand t'étais petit.
Histoire de lobby.
Avant que CR7 et Messi mettent une dictature là-dessus. C'était intéressant.
Parce que t'étais jeune, tu suivais pas tout ce qu'il y avait, juste le Ballon d'Or, Ronaldinho,
le vrai Ballon d'Or. Bon, pas le dernier, mais je dirais avant que ils mettent leur dictature en place, là. T'avais caca, c'était des bons joueurs à avoir le Ballon d'Or.
Oui, mais en fait, c'était pas rentré dans l'époque marketing et tout, qui a pris le pas après.
Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit à cette époque, le Ballon d'Or,
il y avait de la valeur. T'as les clubs qui, dès le mois de mars, décident qui va être leur gars au Ballon d'Or, peu importe les résultats. Et après, ça pousse.
Regarde ce que ça crée avec Hakimi. Hakimi, là, avec Hakimi, mais c'est PSG. C'est...
Hakimi, ça peut être une raison de transfert l'été prochain. Bah, parce que tu le vois qu'il est très tendu par rapport à ce qui s'est passé. Et
ça ne l'a pas plu.
Bien sûr. Ils l'ont mis 6e quand même, ils abusent aussi.
Ouais, mais là, quand même, il est très content pour Ousmane Dembélé. Hein, tu vois.
Parce qu'il ne peut pas dire à l'inverse. Oui, mais
bien sûr.
Mais
au fond, lui, il est comme façade.
T'as quand même le PSG qui l'a empêché de s'exprimer sur Canal.
Il a essayé de s'exprimer, l'interview est sortie. Ouais, elle est sortie.
Ils ont essayé de couper, mais après ils l'ont coupé, il a plus pris la parole.
Mais bon, c'est compliqué cette histoire de ballon
d'or. C'est une fraude, le ballon d'or.
Et puis surtout, on en parle pendant 6 mois, c'est beaucoup trop. Là, vivement qu'on profite un peu les 5-6 prochains mois, on ne prendra pas la tête.
À partir de janvier, c'est fini.
On va pas parler de foot. Mais ouais, à partir des 8e des champions, c'est terminé. S'il y en a un qui a doublé, on va dire ah, ballon d'or.
On n'a pas parlé de Donnarumma là, qui a eu.
Bah, bravo, le mérité.
Ouais, le mérité. Mmh.
Ouais, Donnarumma qui était aux côtés de Ousmane Dembélé.
Son discours, ouais. Aucun message pour le Paris Saint-Germain quand même.
Mais il est parti un peu fâché.
Oui, mais bon,
je pense qu'il a de quoi en vouloir un petit peu. Quand même.
L'année prochaine, ça retombera un peu. Attends, mais là, il est un peu fâché, ça va retomber.
Bon, bref, on va pas rentrer dans les
détails. Ah, tu fais la saison de ta vie, on te jette comme ça.
On t'a pas. Attends. Oh là là là, fais attention à ce que tu dis.
Non, mais. Tu vas pas répéter béatement tout ce que le PSG te dit quand même. L'armée numérique existe.
On n'est pas dans le bureau, mon ami. On est pas dans le bureau.
Mais ça fait un moment qu'on l'avait. Ça fait un moment déjà que ça traînait.
Ah, voilà. Mais après, je peux comprendre quand tu fais cette saison-là. Et qu'on te propose un salaire légèrement à la baisse, tu ne sois pas ravi. Mais
après, attention, le PSG, ils ont un autre système de salaire.
On verra avec Chevalier si c'est un bon choix. Moi, je ne suis pas convaincu. Mais...
Chevalier, moi, je ne m'attends pas à des folies. Mais c'est un
mais pour gagner avec des champions, il faut des folies. Parce que Donnarumma, il t'a fait des folies l'année dernière.
Si tu n'as pas Donnarumma l'année dernière, tu ne prends pas avec des champions.
Ah bah non.
Et même Navas, quand tu vas loin, c'est parce que t'as Navas.
Bien sûr.
En fait, c'est le gardien de but qui faisait la
c'est
différence.
C'est l'élément numéro 1.
Ouais, non, mais pour moi, t'as pas Donnarumma, t'as Keylor Navas. Pour moi, tu prends la Champions. Tu la prends même avant, pour moi.
Oui,
parce qu'il y a Donnarumma aussi qui te fait beaucoup de bourdes.
Et c'est pour...
Même durant le match, on a failli ne pas se qualifier parce qu'il fait des bourdes contre des petits clubs.
Et c'est pour ça, pour moi, que le Barça n'était pas candidat l'année dernière et l'est cette année parce qu'ils ont un vrai gardien cette année. L'année dernière. Chechny, c'était pas un gardien pour gagner
le
stage de gardien.
C'est un gars qui est à la retraite, qu'on a appelé de sa retraite en Medivian.
Mais le mec, pour lui,
c'est fini le foot.
Il prend 8 tirs cadrés en demi-finale, il prend 7 buts. Donc c'est compliqué à ce niveau-là. Il fait des miracles.
Non, mais tu t'imagines, t'es à la retraite, tu vas t'envoyer des pizzas tous les jours. Et il y a un gars qui t'appelle, il dit pas de retraite. Là, reviens, c'est le Barça, tu repars, même si t'es pas. Et on savait qu'il était pas au. Mais je suis d'accord avec toi, du coup. Mais il était pas au maximum de son potentiel, Chechny. Il était là pour être là.
Après,
il aurait pu faire une remontada en gagnant la Champions.
Ça aurait été beau. Tu sors de ta retraite.
Si on regarde les derniers vainqueurs de Champions, c'est toujours des gardiens exceptionnels. À part peut-être Ederson, moi je suis pas fan, mais sinon.
C'est un autre style.
Ouais.
Merci en tout cas, mes chers amis. Il n'y a pas de quiz pour aujourd'hui, mais je voulais un petit animé, une petite question comme ça. Hein. Ça va être souvent des petites questions comme ça. Très rapide, s'il vous plaît. Hein. Je vais vous demander d'être court, concis dans votre truc. Du coup, je vais vous demander de voter tout simplement pour vous qui est un meilleur neuf au prime, hein. Voilà, en prime, qui est le meilleur neuf entre Harry Kane et Karim Benzema. Ouf, prime.
J'avais eu ce débat là cette semaine.
Prime. Oui.
Bon, attends. C'est à moi, tu poses la question.
Vas-y, je t'en prie.
Prime.
Oui.
Moi, y a pas de débat. Je suis Harry Kane, frère.
Harry Kane. Ouais.
Ah ouais, moi je suis pas d'accord.
Oh, pas du tout d'accord.
Ouais, moi c'est mon avis, c'est l'avis que j'avais donné.
De toute façon, t'es contre-courant aujourd'hui, t'es contre tout. Aujourd'hui, t'es contre-courant.
C'est l'antagoniste.
On va dire, vous avez dit quoi? La question elle était posée.
Meilleur neuf au prime.
Pour moi, Benzema n'est pas.
Moi j'aurais préféré Benzema et tout, tu vois. Ouais,
Benzema et tout, ça.
Benzema tous les jours.
Benzema, il a mené ses équipes.
Il a dit Benzema,
c'est pas un neuf.
Harry Kane l'a mené.
Excusez-moi, on s'entend plus.
Harry Kane, quand il a eu les clés d'une équipe, il l'a mené à pas grand chose. Il a raté un penalty important contre la France en Coupe du monde. C'est quelqu'un qui... Non, c'est en Ligue des Champions, on l'a jamais vu briller plus que ça. Dans les compétitions internationales non plus. Donc c'est un super joueur. Mais pour moi, il y a des limites par rapport à Benzema. On
répète la question, 9.
Merci.
Benzema, il a brillé en 9. Il a pas brillé arrière droit.
Entre Harry Kane et Benzema en 9, je préfère Harry Kane.
Oui, c'est une préférence. Mais pour toi, au prime, qui est le meilleur?
Mais lui, il est en train de dire que Benzema n'est pas un 9.
En 9, toi, tu me parles du
9. Mais Benzema, tu fais jouer quand, toi, latéral gauche?
Mais là, Benzema, il a un rôle plus de 9,5, frère.
Oh non,
c'est un 9,5. Il y a un 9 dedans, c'est
9,5. C'est un 9. Non, tu peux pas me dire. Parce qu'en plus, surtout, tu sais, j'ai pris deux profils comme ça parce que
ils ont le même profil.
Exactement.
Ça fait du sens, ça fait jouer les autres.
C'est exactement ça. C'est pour ça que je prends le truc. Eto, c'est un attaquant 9. Tu vois, Eto, c'est Eto, Drogba, c'est des trucs comme ça.
En thème de but, pour moi, devant le but, c'est un tueur.
sur un gage. Pour moi, le débat,
c'est plus sur un gage que Benzema.
Ah, le débat, tu me dis Benzema, Lewandowski, je te dis.
C'est parce qu'il a beaucoup servi Ronaldo.
Parce que Lewandowski, il a fait gagner aussi ses équipes, etc. Kane, il a jamais rien fait gagner.
Mais la règle,
du coup, pour toi, c'est clair.
Benzema tous les jours.
Benzema tous les jours.
Le ballon d'or du peuple. Le ballon d'or du peuple.
Le peuple, si tu veux. Mais moi, je préfère Paris Kane.
Le ballon d'or du peuple.
Le premier ballon d'or du
peuple. Alors, c'est un ballon d'or du peuple, si on peut s'y arrêter deux secondes, c'est n'importe quoi. Okay. Expliquez-moi que Modric, c'est pas un ballon d'or du peuple. Le mec, il est dans un pays en guerre. Il y avait les bombes sur sa gueule. Et lui, c'est pas le peuple, lui.
Ouais, mais il est pas français.
Ah ouais, il est pas français. le peuple, c'est que la France. Le peuple, c'est que. On a dans les favelas, c'était pas le peuple.
Le peuple, c'est Évreux, c'est le 69, c'est la banlieue parisienne. D'accord, ok. C'est le 20e, le 19e. Non, mais pour moi, Benzema, mais pour moi, il n'y a même pas de débat, en fait. Enfin, j'aime beaucoup Harry Kane, mais tu me parles en prime, tu me parles même pas en... Mais pour moi, Benzema, il le tue matin, midi et soir. Merci. Et quand ça allait, il dit que Benzema, c'est pas un tueur. Mais pour moi, c'est un tueur, Benzema. C'est juste que comme il a passé beaucoup de temps de sa carrière à Sergio Ronaldo...
J'ai moins tueur que Harry Kane.
Merci, les gars. On va faire très rapide. On va prendre le dernier avis de Alfred. Alfred, supporter, fervent supporter du Bayern. Hein, on le rappelle. Harry Kane ou Benzema, prime, qui est le meilleur, selon toi? Neuf.
De façon honnête,
oui,
c'est Benzema.
Merci.
Parce que Harry Kane, c'est bon pour le championnat anglais. Après, aujourd'hui, il arrive au Bayern parce que, bon, autour de lui, il est expérimenté. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Benzema reste au-dessus de lui. Pour moi, de façon honnête.
Merci. On va s'arrêter sur cette jolie déclaration, en tout cas, de Alfred, de façon honnête, comme il l'a si bien dit. Merci à vous, nos chers auditeurs et auditrices. On se dit à la semaine prochaine, on espère. Prenez soin de vous. Merci à Abou, merci à Maxence, merci à Alfred, merci à Salson, merci à...
Willy.
Merci à Willy, pardon, j'avais un truc de mémoire. Merci à Willy à la technique. Abou, oui, t'avais quelque chose à ajouter?
Non, mais pas moi, pas la semaine prochaine. C'était ma dernière au bout du foot.
C'est vrai que c'était sa dernière.
Ma dernière, ouais. Donc, mais c'était un plaisir de partager le plateau avec vous. Et j'espère que je vous suivrai. Hein, j'écouterai les prochaines émissions.
J'espère
merci
que quand
à toi
tu seras
de m'avoir accueilli.
Merci à Abou, mais j'espère que quand tu seras en vacances aussi, tu viendras nous rendre visite quelques fois
voir,
pour
après,
quelques émissions.
On prend la grosse tête et tout.
Quand tu seras sur Galf Football Club, tu feras des dédicaces quand même. Tu passeras des petits.
Ouais, je veux dire, Salé, il a dit que Harry Kane, que Benzema, c'était pas un finisseur.
Merci beaucoup, en tout cas.
Attention, j'ai pas dit c'est pas un finisseur. Moi, finisseur qu'Harry Kane, j'ai une préférence pour Harry Kane, j'ai
le droit. On va pas relancer le débat. Mais c'est vrai, Abou, c'était la dernière émission avec mon Paris FM, je pense, pour l'instant, en tout cas. Merci beaucoup, Abou, en tout cas, pour ces années de bonheur. Pour ces années de, tout simplement, de folie, un peu, où tu as dû taper du poing sur la table. Merci d'avoir géré aussi cette radio pendant un moment. Et tu sais que c'est la maison de toute façon, Abou, hein, tu
reviens
quand tu veux.
Peut-être pas dans les autres émissions, mais au bout du foot, avec plaisir.
J'espère bien, en tout cas, merci beaucoup Abou, ça me fait très plaisir. Du coup, on va tous souhaiter à Abou, en tout cas, une bonne continuation dans ses projets. On espère qu'il ira où il doit aller, parce que je pense qu'il ira très très loin. Merci monsieur,
merci
cravate
monsieur.
Bleue, la meilleure cravate, la plus connue de France et bientôt du monde. Merci beaucoup à vous, en tout cas, et bonne soirée à vous. On se dit à très bientôt.
Bonne soirée.
Bonne soirée.